Émission Dans Jase, ton émission du midi avec Jeff Fortin et Pascal CV. Aujourd'hui, Victor Henriquez en remplacement de Anthony Iaccherini dans le caucus. On a également des très bons invités, Alicia Despins, qui vont venir parler de Bruno Marchand avec ses fermetures de patinoires qu'il veut faire payer par les centres de services scolaires et ses feux de poêle à bois. Bref, le conseil municipal d'hier. Donc, on va parler de ceci avec Alicia Despins. Et également, grosse annonce en santé pour ouvrir des places, notamment pour les patients vulnérables. C'est ce qu'on vous offre dans la première heure parce qu'on va parler avec Paul Brunet, qui est le directeur général de la Commission pour les malades. Donc, c'est notre première heure à Boulevard 102.1. Mais avant, Pascal, c'est important, il faut absolument que je fasse une chose pour nos auditeurs. Il faut que je prenne une bouchée de la poutine Ashton pour la Poutine Week. Fromage boursin, bacon, bœuf effiloché, le fromage en grain d'Ashton, les frites.
Je dois dire que tu es un excellent ami, tu es plus qu'un collègue, puis à partir de maintenant, je peux le qualifier parce que tu m'as laissé goûter à ta poutine avant même ta première bouchée. Pis ça, dans un couple, des fois, c'est même c'est-tu pas bon? Adéquat.
Bon, là, guys, c'est fort simple, c'est la Poutine Week. Il faut voter pour la meilleure poutine en ville. Il faut aller goûter les poutines et c'est Ashton que ça se passe. Il n'y a pas de doute dans mon esprit.
J'ai une question pour toi. Ça fait la file, ces temps-ci, chez Ashton. Oui. C'est un énorme engouement pour cette poutine-là. Est-ce que tu le comprends, l'engouement?
Moi, je le comprends définitivement. Le fromage boursin, honnêtement, il y a plusieurs gens qui disent « Ah, ouais, le fromage boursin, c'est écœurant, ça ajoute un petit goût salé à la poutine qui est extraordinaire. » Puis le bacon est cuit à la perfection, ça ne veut pas trop cuit. Et moi, j'aime pas ça, le bacon, quand tu croques de nez, il faut que tu fasses
« Ah, tu casses les dents.
Le bacon est parfait. Non, c'est un mix extraordinaire. Ashton a gagné la Poutine Week l'an passé et je prédis que cette année, il le gagne encore avec ce chef-d'œuvre culinaire.
Mais c'est vraiment du jeu que Ashton participe à la Poutine Week?
Ashton n'avait pas toujours gagné.
Moi, je pense que c'est malhonnête de les faire participer. Ils ont toujours
C'est sûr que c'est la meilleure poutine. C'est la meilleure poutine à Québec et maintenant au Québec parce qu'Ashton c'est expansionné.
Hey, félicitations pour ça.
Ben oui.
Je pense que les gens de Montréal vivent une genre de petite collision personnelle envers leur façon de voir la poutine. Mais Ashton, c'est une poutine qui est différente. Moi, je l'ai toujours dit. T'as le goût d'une Ashton ou t'as le goût d'une poutine. Ashton, c'est comme quelque chose en soi.
Exactement. Puis mes cousines qui habitent à Montréal, disons, on descend à Québec des fois juste pour manger une poutine Ashton. Maintenant, elles peuvent en manger à Montréal. Fait que c'est bien parfait. Mais m'énervaient ces deux cousines. Là, restent à Montréal.
Tu veux bien les accueillir.
Non, ça, c'est un running gag avec moi et ma cousine Stéphanie où je savais ce quel bouton peser quand elle était jeune. Ouf, je savais comment la faire crier.
Mais ça m'a quand même fait vraiment. Mais dis de même.
Fait qu'on a toujours resté avec un genre de. Petite relation sympathique. 418-971-1021, textez-nous. Êtes-vous allé goûter la poutine Ashton? Oui ou non? Comment vous l'avez trouvé? Moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas plus compliqué que cela. Sur le web blvd.fm, ce sera les meilleurs moments de l'émission, notamment le caucus avec Victor Henriquez qui va s'y retrouver également sur une façon de nous écouter avec la web radio. BLVD 102.1, c'est l'application sur App Store, Google Play Store. Téléchargez-les. On le sait, le midi, là, vous allez au Ashton manger une petite poutine. Là. Hop! Vous partez l'application, un petit écouteur dans l'oreille. Vous nous entendez. Twitch.tv/BLVD/FM si vous voulez venir voir cette magnifique poutine. Et abonnez-vous à notre page YouTube parce que il y a nos grandes entrevues qui s'y retrouvent. Il y a également nos podcasts. Donc, juste cette semaine, vous pouvez aller consulter justement l'entrevue qu'on a faite avec Bernard Drainville qui fait encore brasser la petite sauce tranquille qu'il y avait à la CAQ. Ben, lui, il a décidé qu'il sortait le grand fouet qui faisait brasser ça. On va vous faire entendre ceci tout à l'heure. C'est des commentaires qu'il a donnés à la sortie de la période de questions à l'Assemblée nationale il y a à peu près une dizaine de minutes. Et Boba et Christine Fréchette passent dans le tordeur, pas à peu près. Mais avant de jaser de ça, Pascal CV, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité?
Salut, Nazi. On en parle dans pas mal tous les journaux qu'on connaît. Poursuite de 400 000 $ contre le maire de Québec, contre Bruno Marchand. Il a été accusé l'année passée d'avoir fait un salut nazi en plein conseil municipal. C'est la citoyenne Vicky Lépine qui a mis ses menaces à exécution parce qu'elle avait dit qu'elle allait faire une poursuite contre le maire de Québec et c'est fait. Donc, elle intente une poursuite de 400 000 $ Ça a été rapporté par Le Soleil d'abord, mais c'est confirmé par un peu tout le monde. On a dit c'est en commentaire qu'on va répondre à cette nouvelle-là parce que c'est judiciarisé. C'est ça qu'a répondu le cabinet du maire Marchand en fin de matinée aujourd'hui. Donc, 4 février 2025, un an jour pour jour. Mme Lépine a levé le bras en posant une question en plein conseil municipal. Puis le maire Marchand l'a accusé d'avoir fait un salut nazi. C'est ça qui s'était passé en pleine salle. Donc, la principale intéressée a toujours nié ça en disant « j'ai pas fait de salut nazi, que c'est ça, je comprends pas pourquoi on m'accuse de tout ça ». Et pour le maire Marchand, elle s'estime non pardonnée de tout ça. Dans le sens, elle n'a pas été pardonnée, d'après elle, avec des excuses sincères de la part du maire Marchand. Elle a estimé qu'il ne s'agissait pas d'excuses sincères et réparatrices. Alors, c'est pourquoi elle intente une poursuite envers Bruno Marchand. Je vous rappelle de 400 000 $. Tu parles du fait que ça brasse avec Bernard Drainville, ben c'est une chose, parce que là, on essaie de faire trancher Mme Fréchette sur la question du troisième lien, qui est un enjeu important pour Québec et pour la province. Assurément, lui dénonce l'ambivalence de Fréchette là-dessus, qui tarde à trancher. Et c'est mal vu de la part de Bernard Drainville en disant non, on devrait être clair sur ce qu'on pense dès maintenant. Christine Fréchette a tweeté dans les dernières heures. Elle dit « Le dossier du troisième lien est trop important pour être abordé avec émotivité. » Il doit être traité avec rigueur. J'entends les préoccupations des citoyens de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Je veux les rassurer, je ne laisserai pas tomber ces gens-là. Il y a des enjeux de circulation qui doivent être adressés. Je poursuis actuellement mes discussions avec les acteurs du milieu économique et municipal et je ferai connaître ma position au cours des prochains jours. Alors, ça ne sera peut-être pas aujourd'hui qu'on va avoir la position, encore une fois, de Mme Fréchette. Il y a un temps de réflexion sur le troisième lien, oui, mais c'est sûr qu'on parle encore de savoir si le tracé sera à l'ouest, à l'est, où est-ce qu'il a été vu pour la première fois. Puis ça, on en jase encore plus du fait que le pont de l'île d'Orléans, en ce moment, est en pleine construction.
À cet effet-là, Charles Milliard réagit également. Là, son attaché politique m'a envoyé, puis ils sont envoyé à plein de monde, là, la déclaration de Charles Milliard. Mm-hmm. Alors, en gros, ce qu'il dit, puis je vous lis la fin, « Ma priorité demeure de redresser les finances de l'État, mais je ne jouerai pas à l'autruche sur la nécessité du troisième lien comme investissement pour la mobilité de la région de la Capitale-Nationale de Lévis et le développement économique de l'Est du Québec. Nous devons poursuivre les discussions afin d'établir un plan et un échéancier réaliste financièrement. » Donc, Charles Milliard se positionne pro-troisième lien. Je pense que ça peut être très pertinent ici dans la région de Québec pour le Parti libéral.
Énorme transaction à Québec aux Américains. C'est un fleuron du Québec qui a été vendu pour 2 milliards de dollars. C'est la multinationale technologique EDFI. C'est à Sainte-Foy. Elle vient d'être vendue en totalité à des intérêts américains. Alors, c'est ce qu'on apprenait. L'acquéreur ESAB Corporation, c'est une société du New Hampshire. Elle est inscrite à la Bourse de New York et donc elle avale l'entreprise au complet. C'est un millier d'employés, dont 450 ici à Québec. Et jusqu'à maintenant, ben, c'était bien connu que cette entreprise était fort implantée ici. Et Martin Thériault s'est prononcé sur tout ça. Il a écrit une longue publication Facebook dans les dernières minutes, je dirais peut-être la dernière demi-heure. C'était un des propriétaires. Il dit que c'était avec beaucoup d'émotion que cette vente-là a été faite. Un fleuron à l'étranger dit « Je suis d'accord, ça peut amener des critiques, mais il faut comprendre la game », il met en parenthèse, « pour porter un vrai jugement. Les priorités de vie des fondateurs et exécutifs entrent aussi en jeu. J'ai essayé de la garder québécoise, canadienne, mais en vain. » Alors, il dit qu'il a travaillé pour que ça reste ici, mais que ça n'a pas fonctionné. Par contre, EDFI va continuer sa croissance à Québec. Il dit qu'il ne faut pas être inquiet.
Au sport, 19h ce soir, c'est le Canadien de Montréal qui affronte les Jets de Winnipeg. C'est le dernier match du CH avant la pause olympique, donc en environ 3 semaines. Nick Suzuki sera sur la patinoire. On sait qu'il va représenter Équipe Canada. 19h ce soir, manquez pas le match Canadien-Jets, la dernière fois en 3 semaines que vous pouvez voir vos Canadiens. À l'instant même, on amorce le caucus.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Victor Henriquez. Aujourd'hui, en remplacement d'Antonin Iaccarini. Mon ami Victor, comment vas-tu?
Ça va très bien, mais avoir su que tu aurais de la poutine en studio, Jeff, je serais monté à Québec.
Ben, c'est ça, je pense. La bonne poutine Ashton, en plus, Victor. L'aimes-tu, la poutine Ashton, toi qui es à Montréal?
J'adore la poutine Ashton. D'ailleurs, j'allais à Québec juste pour ça, à une époque.
Non!
Maintenant, je peux aller à Mirabel. Donc, je suis bien heureux.
Ah. C'est vrai que tu faisais ça? Goûter. C'est vrai que tu faisais ça comme la cousine à Jeff? Ah ouais, hein?
Moi, je faisais incroyable. Ça. Puis j'en avais une autre à Québec qui était très chère à mon cœur. Qui l'est encore. C'est celle de chez Hector. Alors, oui. Je salue les gens de chez Hector, celle-là aussi, elle est bien importante à mon cœur, mais deux poutines, c'est jamais trop, hein? Une pour l'aller, une pour le retour. C'est parfait.
Exactement, c'est parfait, sans l'ombre d'un doute. C'est les propriétaires d'ici de Québec qui ont racheté Ashton, les propriétaires qui avaient le casse-croûte Tiwi à Saint-Raymond. Et ça, on est très contents de ça. C'est une belle fierté pour nous d'avoir pu conserver Ashton avec des propriétaires qui viennent de la belle capitale nationale. Bon, Victor, si t'es en amour avec la poutine Ashton, moi aussi, je suis en amour. Il y a deux personnes qui sont pas en amour à l'heure actuelle et c'est Marois Risquet et Geneviève Hines. À coup de sortie dans les médias, on fait couler les documents judiciaires. Ouf, je ne sais pas quoi penser de cette saga-là, Victor. Toi qui es un grand sage, explique-moi.
Eh hey, mon Dieu, j'aimerais ça pouvoir t'expliquer le désamour, mais on va s'entendre sur une chose. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu le reflet de la raison pour laquelle les libéraux se sont retrouvés dans la crise dans laquelle ils se sont trouvés. Parce que, vous savez, une tension aussi forte n'apparaît pas seulement le jour du congédiement, le 17 novembre dernier. Cette tension-là, elle se crée, elle se développe avec le temps. Je pense que du côté de Mme Risquet, son rôle était peut-être mal discuté avec son chef. Mme Risquet se voyait comme la chef parlementaire, le chef la voyait comme sa représentante au Parlement. Et du côté de Mme Hens, ben, il semblerait qu'elle ne considérait pas que ses ordres devaient venir de Mme Risquet, mais bien de M. Rodriguez. Et cette confusion-là nous amène là, mais je trouve ça super intéressant ce que tu amènes, Jeff, parce que il y a tout un narratif qui a été construit dans les derniers jours. C'est important que les gens qui suivent l'actualité le sachent. Hein. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. Le fait que la défense de Mme Risquet soit publiée dans les journaux le jour avant la rentrée parlementaire, c'est la meilleure façon d'être sûr que tu sois le centre de l'attention le lendemain. Mme Risquet est apparue deux fois hier devant les médias. C'est une de ses grandes forces de savoir jouer avec la machine médiatique. Elle le fait à merveille. Elle l'a très bien réussi. Aujourd'hui, Geneviève Hens réplique. Et la différence, c'est que Geneviève Hens réplique, mais elle ne se présentera pas devant les caméras. Donc, elle aura cette réplique dans certains médias, mais elle n'aura pas son visage à la caméra, dire ce que Mme Risquet a dit hier. Là-dessus, elle est une coche en arrière. Mais on ne saura pas. Moi, je pense qu'on ne saura jamais. Tant que les tribunaux ne seront pas passés dans les différents faits, on ne saura pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé. Là, les versions sont très contradictoires de l'une à l'autre. Et c'est peut-être même perceptuel de l'une à l'autre, les différences.
Il y a des gens qui se demandaient si c'était vraiment de nos affaires, si on avait à avoir un peu la lumière dans cette histoire-là. Bien, pour la majorité des gens, je pense que la réponse, c'est oui, parce que ça parle un peu du parti, de la façon dont la politique est arrangée, non?
Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. En même temps, tu vois, c'est aussi quelque chose qui peut déranger fortement, notamment les libéraux. C'est le genre de situation qui, historiquement, au Parti libéral, se serait réglée à l'interne. Parce que moi, il me reste toujours cette grande question. Hein. Puis je vous avais appelé un peu puriste de la politique, mais je trouve que la politique, c'est un sport d'équipe. Puis quand tu joues en équipe, la question qui me reste, c'est pourquoi Marois Risquet n'a pas visé ni le président du parti, ni les officiers du parti, pas de whip, pas de présidente de caucus et surtout pas son chef. Si vraiment tu joues en équipe, il y a au moins quelqu'un vers qui tu te tournes, en qui tu as confiance dans ta gang, pour discuter des décisions que tu vas prendre, puis dire « Hey, donne-moi donc un ton de scène. Je veux savoir ce que tu penses de ça. » Il y aurait eu une discussion. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'elle n'a pas informé personne. Elle est arrivée à la rencontre avec son chef, avec un avocat. Donc, elle a voulu passer un message. Et le message, c'était « C'est moi la chef parlementaire. C'est mon staff. À l'Assemblée, c'est moi qui décide. Et ça va se passer comme ça. » Et ça, je suis pas sûr que ça reflète l'esprit d'équipe. Et ça ne reflète surtout pas ce qu'il faut faire pour régler les problèmes en famille. C'est le gros problème des libéraux parce que, je ne sais pas, je vous invite d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, à lire l'article de l'actualité avec Pablo Rodriguez, où est-ce qu'il dit littéralement « J'ai été victime d'un putsch ». Alors encore aujourd'hui, il y a des choses inexpliquées, puis j'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va savoir la vérité parce que c'est extrêmement nébuleux tout ça.
Non, en effet. Puis je termine sur le dossier Risquet-Hines avec cette question-là. Victor, il y a deux courants de pensée présentement. Toi et Antonine, vous représentez le courant de pensée de « Elle aurait dû jouer en équipe ». Puis il y a un autre courant de pensée de gens qui disaient que c'était tellement corrompu qu'elle n'avait pas le choix d'agir seule. Mais dans ce qui sort dans les médias, le président du Parti libéral est entaché dans rien. Donc, je pense que c'est là qu'elle aurait pu avoir sa pogne. Je me trompe-tu?
Ben, vous savez, il y a une chose, hein, parce que Mme Risquet, hier, a dit « J'ai jamais voulu être exclue du Parti libéral ». Si le Parti libéral était si corrompu que ça, elle serait la première à avoir voulu partir. Si tu es une incorruptible et que tu considères que ton parti est bourré de corrompus, tu ne restes pas dans ce parti-là. Tu quittes le parti et tu joues toute seule. Le problème, c'est qu'elle nous dit « je suis libéral », mais de l'autre côté, elle fait confiance à personne dans cette gang-là. Et moi, c'est là où j'ai un problème. Parce que la confiance, elle doit se jouer là-dessus. Si tu ne te sens pas membre d'une famille, que tu considères que dans ta famille, c'est toutes des pourris, là, tu vas sortir de la famille, tu vas peut-être vouloir même changer de nom de famille. Mais dans ce cas-ci, elle dit « je suis libéral », mais elle joue avec personne de son équipe.
Ouais,
ça, pour moi, c'est démonstratif du fait qu'il y a peut-être plus une façon de faire de la politique que vraiment un processus très, comment dire, réfléchi ou stratégique.
Vous en pensez quoi? 418-971-1021, écrivez-nous justement ce que vous pensez. Pensez-vous que Marois Risquier a bien agi ou mal agi en agissant seul?
Tu parles du fait que ça pourrait être fait à l'interne sans que ça sorte et tout ça, mais j'ai peut-être l'impression que ça nous permet de faire un petit ménage politique. Tu sais, Charles Milliard qui s'installe aussi au sein du Parti libéral, qui est venu en entrevue avec nous, je lui avais posé la question à savoir, bon, ça sera qui et quoi son équipe? Est-ce que c'est des gens de l'interne ou va aller un peu à l'extérieur? Sans nous dire exactement ça, moi, ce que j'ai perçu, c'est oui, il y aura des gens de l'extérieur parce qu'on n'a pas envie que la façon de faire soit un peu gangrénée. C'est vraiment la lecture que j'ai eue en deux lignes. Peut-être que ça pourrait permettre au Parti libéral de refaire un ménage du printemps, tiens, puis peut-être vraiment revamper l'image du dit parti, Victor.
Ben oui, mais tout ça part de la prémisse que si tout ça s'était géré adéquatement en novembre, ben l'image du parti ne serait pas aussi attachée qu'elle l'est, parce que, je veux dire, cette démonstration de corruption, moi, je veux juste revenir sur les faits, hein, puis je ne les connais pas encore au complet. Moi, factuellement parlant, ce qui m'a décidé à dire qu'il y avait un problème, c'est la journée chez M. Cabral.
Ouais.
Encore là, M. Cabral, est-ce qu'il a décidé lui-même de rembourser son membre? Est-ce qu'il a dit à tout le monde qu'il allait rembourser ses gens? Ça, on ne le saura pas nécessairement tout de suite. Mais à part ça, tout ce qu'on a eu, c'est des rumeurs. Tout ce qu'on a eu, c'est des allégations non fondées. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, attention, on va savoir dans 2-3 ans ce qui s'est vraiment passé. Puis attention aussi à Charles Millard de ne pas donner l'impression que le parti est coupable avant même de savoir les faits. Parce qu'il vivra lui aussi avec la réputation de ce parti-là. Alors ça, là-dessus, je serais extrêmement prudent, moi, à sa place. Là-dedans, il y a un grand perdant. Il s'appelle Pablo Rodriguez. Et Pablo Rodriguez, il a fait 24 années de politique, c'est la première fois qu'il lui arrivait quelque chose comme ça. Il en parle dans l'actualité. Puis moi, j'ai tendance à croire la bonne foi des gens en général, quel que soit le parti, vous savez. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que la corruption, ça gangrène la politique québécoise. Je pense que la corruption au Québec, oui, il y a des gens, ça a déjà existé. Ça peut encore exister. Il faut faire très attention dans le trop de contrôle notamment. Mais je pense que dans la très, 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 très grande majorité de tous les partis politiques, les gens font de la politique de façon clean et pour les bonnes raisons. Alors, je pense qu'il faut toujours faire attention lorsqu'on on lance de la boîte sur les autres. Et c'est ça qui s'est passé au Parti libéral, c'est que d'habitude, la boîte, elle ne se lance pas entre eux. Et pourtant, au PQ, ça, on avait vu ça dans les années 90. Donc moi, ça me porte à dire, des fois, le Parti libéral est devenu ce que le PQ était avant. Et aujourd'hui, le PQ a la discipline que les libéraux avaient avant. Et ça prend beaucoup de solidarité, mais ça prend aussi de se dire, ben, à un moment donné, on doit faire les choses entre nous et on doit s'assurer surtout de faire les choses sur les faits et non pas sur de la petite politique ou des chicanes internes.
Pour rappel, vous êtes dans le caucus de midi 5 environ à 12h30 du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 101 de l'émission On en jase. Aujourd'hui, c'est Victor Henriquez en remplacement d'Antonine Iacarini. Victor, parlons des vraies affaires. La chicane à CAQ. La course à la chefferie. Moi, ça me passionne. On est dans un Québec-Montréal, puis moi, je l'aime, ma capitale. Et voici ce que Bernard Drinville avait à dire concernant le fait qu'on ne fera pas d'annonce, finalement, sur le troisième lien avant la fin de la course à la chefferie.
Nous avons tous les deux fait campagne sur l'engagement de se donner un troisième lien entre Québec et Lévis. Être à la CAQ, c'est être pour le troisième lien. Par la suite, on a eu des présentations du projet, tant au caucus qu'en comité ministériel qu'au Conseil des ministres. Nous avons tenu des consultations publiques et le gouvernement a décidé, il a retenu un corridor.
Être à la CAQ, c'est être pour un troisième lien. On dirait que je suis pas sûr de cette affirmation-là, moi. De la façon qu'on gère le dossier depuis 8 ans.
Ah, et puis de la façon qu'on gère le dossier depuis 3 jours, non plus. Ouais. Hein. Mais il y a une chose. Et M. Legault est sorti ce matin pour dire qu'à la CAQ, on est tous pour le troisième lien. Je pense que là, le premier ministre essaie de remettre tout le monde au bon endroit. Mme Fréchette, elle réfléchit, mais moi je comprends sa réflexion. Puis Je ne serai pas le gars de Montréal qui va se prononcer sur la viabilité du troisième lien. Je ne le sais pas. Je ne suis pas spécialiste ni en transport, ni en mobilité. Puis je ne suis surtout pas pogné dans le trafic de la rive sud puis de Québec à tous les jours. Donc là-dessus, je ne me prononcerai pas. Il y a une chose, par exemple, c'est que dans ce dossier du troisième lien, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas encore entendu un projet suffisamment solidement ficelé pour dire oui, je suis pour ça, puis il faut le faire tout de suite. C'est clair. Alors, tu sais, on est encore en train de carotter dans la roche à Sillery. On a un tracé qui, je m'excuse, j'ai de la misère à l'imaginer, ce tracé-là. On a des études qui disent certaines choses ne sont pas complètes. On n'a pas encore le panorama complet. Et surtout, on ne sait pas combien ça va coûter et comment on va le financer. Donc, je ne peux pas reprocher à Mme Fréchette de réfléchir, mais je pense que là, il y a une tendance qui se dessine. Et M. Drainville, dans sa capacité à créer des formules, a une très bonne formule. Quand tu es à la CAQ, tu es pour le troisième lien. Puis je serais allé plus loin à sa place. J'aurais dit, quand tu es à la CAQ, tu es pour la laïcité, tu es pour le troisième lien. Et j'aurais décliné les éléments de base. Ça lui permettrait de mettre ses piliers. Là-dessus, il marque des points aujourd'hui.
Je trouve ça intéressant de t'entendre là-dessus parce que c'est vrai qu'on est pas mal rendu dans un enjeu un petit peu plus émotif. On trouve qu'on perd du temps, qu'on n'a pas travaillé sur le dit projet quand c'était le moment de le faire avancer, du moins de sortir quelque chose d'assez concret. Par contre, hier, j'ai éclaté de rire parce que il y a quelqu'un qui a commenté la politique qui m'a remis à la base de ce qui se passe en ce moment, puis je m'en suis voulu de ne pas avoir passé de commentaire ou que ça ne me soit pas venu en tête. La vraie base en ce moment, c'est qu'il n'y a personne qui travaille pour nous en politique. On travaille à se trouver un chef. On se travaille à refonder un parti. On travaille à faire des enquêtes à l'interne sur comment ça s'est passé lors de la course à la chefferie d'un puis d'un tel. On travaille... Mais quel parti, là, clairement, en ce moment, travaille sur nos enjeux quotidiens puis nous présente chaque jour de façon hebdomadaire des choses pour lesquelles on aimerait entendre chacun des partis se prononcer?
Oh boy, c'est criant de vérité tout ça, Pascal. C'est vrai, en ce moment, c'est une situation particulière. Puis je vais amener une petite analyse là-dessus parce qu'on a tendance à oublier que ces fameuses élections à date fixe, c'est quelque chose d'assez nouveau en passant. Rappelons-nous que c'est seulement la deuxième élection à date fixe qu'on fait. Avant, on choisissait les élections, les premiers nés choisissaient quand est-ce qu'ils déclenchaient. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'effet pervers de cette élection à date fixe. Moi, ce que je sens, parce que je travaille dans relations gouvernementales notamment, ce que je sens, c'est qu'il y a des ralentissements naturels, et pas juste des élus, mais il y a des ralentissements naturels de la machine. On sait qu'à la fin de l'année, les chances qu'on ait les mêmes patrons sont presque nulles. Même si le même parti reste, les choses vont changer. Puis avec la démission de M. Legault, c'est encore plus amplifié. Parce qu'avant la démission de M. Legault, les fonctionnaires pouvaient se dire « Ouais, les chances que M. Legault gagne sont minces ». Et là, ce n'est plus une question de savoir s'ils peuvent gagner ou pas. C'est une question de dire qu'il est clair que le premier ministre ne sera pas le même après l'élection d'octobre. Donc, les ordres, les consignes qu'on reçoit aujourd'hui risquent de changer en novembre prochain. Et 11 mois en politique, c'est une éternité et en même temps un claquement de doigts. C'est extrêmement rapide pour la machine, c'est extrêmement long pour tout ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale et dans la game politique. Mais moi, je pense qu'on est en train de vivre l'effet pervers. Parce que déjà un an avant, on commence à voir la machine qui ralentit. Parce que finalement, 9 mois avant l'élection, ça va être de plus en plus difficile. Puis c'est rien encore. Imaginez au mois de juin prochain. Au mois de juin prochain, il n'y a plus rien qui va se passer. On va être dans le maintien du gouvernement. Donc, tu as entièrement raison, Pascal. Mais à un moment donné, c'est aussi l'effet des décisions qu'on a prises. Parce qu'on voulait retirer entre les mains des premiers ministres cette capacité à déclencher des élections au moment de leur choix. On est tombé dans une situation où est-ce que tout est tellement imprévisible que les changements sont aussi prévisibles. Et là, ce qui fait que la machine, elle ne roule plus à la même vitesse. Et comme tu dis, on est en train de perdre le fait de travailler pour le monde, de travailler pour régler les problèmes. Monsieur Julien, il dit « Je vais attendre de voir au mois d'avril parce que je ne suis pas sûr que je vais sortir les études tout de suite. » Là, je me demande d'abord, les études sont-elles prêtes et que disent-elles? Mais ensuite, si tu attends, tu es en train de montrer aux gens que finalement, la machine, elle ne roule plus assez vite. On a vu aujourd'hui un projet de loi sur la santé qui a été développé. Espérons qu'il soit adopté de la bonne façon. Ça, je pense que ça va avancer assez rondement. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers où est-ce que l'identité du chef et de la chef de la CAQ est extrêmement importante et l'identité du prochain premier ministre en novembre prochain est extrêmement importante aussi parce que les dossiers en gouvernement, c'est du long terme.
Et si on revient au chef ou à la chef de la CAQ, si Bernard Drinville n'a pas nommé laïcité et toutes les autres priorités de la CAQ, Victor, je te fais entendre cette minute de bonheur où Bernard Drinville s'est payé la tête de Christine Fréchette. On écoute.
Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, Mme Fréchette soit incapable de prendre une position en faveur du projet. C'est pas comme si le troisième lien était une surprise dans cette campagne. Ces tergiversations nuisent à la crédibilité du projet, nuisent à la crédibilité du gouvernement et nuisent à la crédibilité du parti. Comme premier ministre, il faut savoir prendre des décisions. Parce que, comme le veut l'expression, tout ce qui traîne se salit. Un chef de gouvernement doit savoir décider et être capable d'assumer ses décisions. C'est une question de leadership. Je dirais même, dans ce cas-ci, c'est un test de leadership. L'ambivalence et l'hésitation de Mme Fréchette n'envoient pas un bon signal dans ce dossier, comme dans les autres dossiers où elle est incapable de prendre sa décision. L'indécision est la pire des décisions.
Crédibilité du parti. L'indécision est la pire des décisions. Comme premier ministre, il a beurré épais Bernard aujourd'hui.
Oui, mais il y a une chose que Bernard Drinville sait faire mieux que bien du monde à la CAQ, c'est de faire les nouvelles puis de nous donner les bonnes clips.
Oui, cette clip-là va suivre la campagne à la chefferie jusqu'au 12 avril.
Ça va suivre extrêmement longtemps. Ce qui est drôle, par exemple, c'est que, dans le fond, Bernard Drinville, qui s'est dissocié à peu près de toutes les décisions de la CAQ depuis 4 ans, est en train de se chicaner avec Christine Fréchette sur le seul dossier duquel il ne se dissocie pas de son premier ministre. Et du côté de Mme Fréchette, on est dans un des rares dossiers où est-ce qu'elle semble se dissocier, c'est même pas encore clair. Moi, très honnêtement, je pense qu'en termes stratégiques, d'abord, on va s'entendre, là, c'est une campagne à la chefferie. Là. On ne gagne pas une campagne à la chefferie sur le troisième lien. C'est les membres de la CAQ qui vont décider. Maintenant, est-ce qu'on gagne une campagne à la chefferie sur le fait de ne pas garder certains acquis caquistes? Ça, par exemple, ça peut faire très mal à Mme Fréchette. Et c'est là où je vous avoue que je m'attends à ce que Mme Fréchette prenne une position sur le troisième lien plutôt positive, assez rapidement. Mais dans sa posture d'être la candidate économique, d'être une candidate de rigueur économique, je m'attends à ce qu'il y ait des bémols à cet appui-là. En disant, par exemple, il en faut un, mais il faut que le coût soit bien contrôlé ou il faut que le tracé soit confirmé. Je m'attends à avoir un « mais basé sur la rigueur et la responsabilité. Je pense que là-dessus, elle pourrait se démarquer tout en respectant le fait que les membres ne veulent certainement pas de dissociation. Pourquoi? Parce qu'il faut le rappeler, l'abandon du troisième lien aux vieux des caquistes, ça a été le début de la chute.
En terminant, Victor, j'aimerais t'amener sur un petit clin d'œil. T'sais, la CAQ, en ce moment, il y a plein de matelots qui ont quitté le bateau. Jonathan Julien, qui s'occupe du projet du troisième lien, a annoncé également qu'il quittait le bateau. On est en train de se livrer à une course à la chefferie qui est assez batailleuse. Là. T'sais, on se coltaille, littéralement, de Mme Fréchette puis M. Drinville. Qu'est-ce qui va rester de la CAQ par la suite? Puis est-ce qu'il va y rester un minimum de coopération puis de travail d'équipe, selon toi, avec tes yeux d'ancien analyste politique à l'interne dans un parti?
Ça va être le grand défi de la prochaine chef, qui que ce soit, si M. Drinville ou Mme Fréchette, de justement recoller les morceaux. Mais il y a une bénédiction dans ces départs-là aussi pour le prochain ou la prochaine chef. Là. Parce que vous savez, incarner le changement, lorsqu'on est dans le même parti, ça passe par changer les visages. Puis là, il y a des visages qui volontairement quittent. Ça fait des comtés à remplacer. Jonathan Julien, Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel, Lionel Carman, Christian Dubé. C'est tous des gens qu'on a vus pendant les 8 dernières années. Et ces visages-là, on va pouvoir les changer. Et du côté de la prochaine chef, les remplacer par des visages crédibles. Donc, si cette personne-là est capable d'attirer des candidatures, elle va être capable de donner une image de changement. Ce qui est la priorité absolue de la prochaine chef de la CAQ. Parce que c'est ça leur grand défi, c'est de montrer changement. Puis le sondage nous a dit qu'il y avait cette capacité, par exemple, de Mme Fréchette à monter de 10 points. Moi, je pense que s'il y a un des deux qui incarne le changement, ben, ça ne va pas juste être 10 points. Le potentiel est grand pour ce parti-là. parce que les Québécois sont dans un dilemme pour la prochaine élection. Et la question économique est encore importante. Et Bernard Drinville, puis la question de la rigueur de l'État, par exemple, et des finances publiques, c'est un discours qui perce. Alors, je pense qu'il y a plein d'éléments ici qui nous disent une chose. Ne vous fiez pas sur les sondages de la semaine dernière parce que tout ça va bouger d'ici le mois d'avril prochain.
Chers auditeurs, chères auditrices de Boulevard 101 et de l'émission On en jase, retenez ça autant Antonine Niagarini que Victor Henriquez nous disent « La CAQ n'est pas mort ». Vous y croyez, non. Vous n'y croyez pas? 418-971-101, faites juste répondre « Oui ou non ». Oui, la CAQ n'est pas morte? Non, la CAQ est morte. Victor Henriquez, c'est toujours un bonheur et un plaisir de parler avec toi.
Merci pour l'invitation. À bientôt.
Good. Salut Victor, à bientôt.
Salut.
Après cette courte pause à Boulevard 102, on va parler d'un sujet très chaud, c'est-à-dire le maire Marchand qui fait réagir avec ses pistes cyclables qu'on déneige, ses fermetures de patinoires qu'on veut faire, ses poils à bois et également ses commentaires envers les commerçants après notre entrevue hier, et c'est disponible sur le blvd.fm, une entrevue exclusive avec Marie Langlois, directrice générale de la Société de développement commercial de Montcalm. On parle de tout ça avec Alicia Despins, notre chroniqueuse en politique municipale, après cette courte pause à Boulevard 101.
Custax dans les succursales Brunet participantes et au carnaval.qc.ca. Besoin de plus d'espace, de confort et de sécurité cet hiver? Découvrez le tout nouveau Volkswagen Taos 2026 et obtenez-le à partir de seulement 110,65 $ par semaine sur 51 mois à 2,99% d'intérêt. Volkswagen Saint-Nicolas, prenez la route en toute tranquillité.
Ici Guillaume, directeur des ventes chez Profab. Vous pensez construire une maison ou un chalet en 2026? Profitez de notre méga promotion pendant les salons de l'habitation et venez rencontrer notre équipe de conseillers. C'est LE moment idéal pour donner vie à votre projet. Tous les détails au profab.ca.
À partir de maintenant, tes soupers vont changer pour toujours grâce à Alimentation FC. Arrête de courir partout parce qu'on te livre ça directement chez toi. Viande locale et naturelle, disponible dans plus de 300 coupes. Alimentation FC, la viande sans compromis. AlimentationFC.com.
Savais-tu que CA Québec vend des croisières?
Oui.
Puis savais-tu qu'en plus, si t'es membre, tu peux avoir des rabais et des privilèges à bord du bateau?
Ben là!
Puis savais-tu qu'il faut se mettre de la crème solaire plus qu'une fois dans la semaine?
Hein? Je suis rouge!
Ouais. Pour votre prochaine croisière, appelez CA Québec. Savais-tu que CA Québec offre une assurance voyage?
Oui.
Savais-tu qu'en plus, si t'es membre, t'as 10% de rabais?
Ah ben!
Puis savais-tu que t'as le droit d'y retourner au buffet du resort?
Pourquoi tu dis ça?
Ton assiette doit peser 6 livres tellement elle est remplie.
C'est pas faux!
Pour votre assurance voyage, appelez CA Québec.
Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers.
C'est la Poutine Week et Ashton vous invite à découvrir la Steak Boursin signée numéro 76. Avec du steak émincé, du boursin crémeux, du bacon croustillant et une touche de persil, c'est une poutine qui frappe fort. Approuvée par Zachary Bolduc. Disponible maintenant. Ashton, frais, vrai.
Osez vous perdre dans le bleu infini. Ralentir pour mieux découvrir. Sentez-vous libre, vraiment libre. Les îles de Guadeloupe, ça se prend bien. Disponible en vol direct de Québec.
Dino vous offre ce qu'il y a de mieux pour votre animal de compagnie. Profitez d'un rabais de 50% à l'achat d'un petit sac de nourriture Royal Canin pour chien ou chat. Et des rabais sur de nombreux produits spécialisés bucco-dentaires. Visitez dino.ca pour voir tous nos autres spéciaux.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Tu as reçu la grande demande. Mamzelle Pop est là pour la planification et la coordination de mariages ou d'événements spéciaux. Ici, chaque mariage est pensé selon votre vision pour créer des souvenirs mémorables. Trop d'idées? Pas assez de temps pour tout organiser? Diminue le stress et visite mamzellepop.com.
T'es dans la construction? Prends action dès maintenant pour obtenir ta licence RBQ. Le groupe GSC forme et accompagne les entrepreneurs partout au Québec. Formation intensive, flexible et adaptée à ton horaire. En classe, en ligne ou hybride, visite groupegsc.com.
Groupe Saillant Autocrédit, c'est quoi? Groupe Saillant Autocrédit, c'est plus de 50 ans d'expérience cumulée en financement automobile. Groupe Saillant Autocrédit, c'est l'art de travailler vos dossiers avec précision et détermination afin de tout mettre en œuvre pour rendre l'impossible possible. Groupe Saillant Autocrédit, c'est quoi? C'est la référence en crédit spécialisé ou, si vous préférez, en deuxième ou troisième chance au crédit. Pour ta nouvelle auto, adresse-toi à des pros. Parce que nous, notre force, c'est le crédit. Groupe Saillant Autocrédit.com.
La météo, présentée par le Crew Mignon en mode football. Une livre de pulled pork, 12 ailes de poulet, un rack de côte levée et 9 boulettes de bœuf pour 45$. Crewmignon.com, sur réservation seulement.
On en jase à Boulevard 102.1. Gros dossier du jour, ce qui se passe dans notre ville, tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Oh oui, on jase de plein de sujets d'actualité à On en jase. On vient de faire le tour du retour de Marois Risky à l'Assemblée nationale, de cette chicane et cette course à la chefferie de la CAQ entre Bernard Drainville et Christine Fréchette. Et là, on va passer à l'actualité municipale avec Bruno Marchand. Merci de nous écrire au 418-971-1021. Je retiens ce que Stéphane nous a écrit, puis je trouve ça très intelligent et pertinent. Il dit « Oui, la CAQ est morte, mais ça peut toujours changer dans l'isoloir. » Fait que je vais le voir quand je vais le croire. Il a pas écrit ça, ça c'est moi qui ai dit ça, mais il dit « Je vais attendre après l'élection pour me prononcer. »
Il y a une petite communication qui nous est venue aussi pendant la pause, Jeff, que j'aimerais souligner.
Vas-y donc.
Quelqu'un qui nous dit « Hey, Boulevard, mettons, là, ça vous tente pas de devenir encore plus la radio du peuple, des fois en créant... Puis il énumère des petites choses comme
ouais,
ça.
Oui.
Puis, Vox Pop, pétition, etc. » Tu sais, on a mis récemment, puis je pense que les gens savent pas pour tout le monde, une adresse courriel directe avec
bon
notre collègue Mathias, qui, au moment où vous avez une idée, au moment où vous avez une réclamation à faire, au moment où vous trouvez que vous êtes peut-être lésé dans quelque chose, au moment où vous avez de l'information intéressante, vous pouvez écrire directement à notre collègue Mathias, qui vient d'être engagé pour ça. Il est autant sur le terrain qu'il consulte sa boîte courriel à chaque jour. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. Donc, il attend juste ça, que vous l'alimentiez. Si vous avez des demandes spéciales, vous pouvez nous les faire assurément sur nos réseaux sociaux personnels, mais également cette adresse-là qui est citoyen. @blvd.fm, est-ce que je me trompe?
C'est en plein ça, Pascal CV, tu as entièrement raison. Donc, n'hésitez pas, Mathias fait un travail impeccable sur le terrain, puis il va aller justement vous rencontrer et faire cheminer votre dossier via notre superbe média, c'est-à-dire la radio Boulevard 102.1. À la météo, moins 6 aujourd'hui. On parle de faible neige intermittente, mais présentement, c'est très ensoleillé. Très belle journée d'hiver. Moins 9 est dégagé pour demain jeudi, moins 10, possibilité d'averse de neige pour vendredi. On s'en va rejoindre immédiatement notre chroniqueuse en politique municipale et ex-conseillère municipale dans le district de Vanier-du-Berger, Alicia Despins. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien.
Cool. Alicia, 13h30 cet après-midi, on parlait de Mathias sur le terrain. Mathias va être là et va aller écouter cet expert mystère de respect citoyen concernant les feux des poêles à bois, les particules de bois qui se retrouvent dans l'air et la qualité de l'air. Tu t'attends à quoi?
Bien là, c'est sûr que de la manière dont ils ont présenté ça, respect citoyen, les attentes sont hautes. Donc, s'ils répondent pas à ces attentes-là avec un expert mystérieux qui est reconnu, qui a une crédibilité certaine, ça va être difficile là, de se relever de ça dans le dossier des poêles à bois. Respect citoyen a demandé un moratoire. Donc, ils sont à la fois pour la qualité de l'air et pour les foyers, là, finalement, là, dans les résidences là, pendant les épisodes de smog. Donc, c'est difficile à concilier ces deux opinions-là. Et moi, je suis un peu sceptique là, qu'ils ont été capables de trouver un expert convaincant qui viendrait présenter des arguments qui pourraient relancer le débat. Je veux juste vous mentionner que ça reste un vieux débat. Là. Des experts, on en a entendu. On avait eu un genre de commission à l'hôtel de ville avec tous les élus, plein d'experts en 2021, début 2022. Donc, ce débat-là, on a fait le tour, on a des données, on a des chiffres. Alors, j'ai pas des très grandes attentes, mais je reste ouverte.
T'es-tu capable de nous expliquer là où est la difficulté quand tu es en politique de prendre des mesures comme celle des poêles à bois, par exemple, pour les particules, pour la santé des gens, et la fine ligne qui va se créer entre ne pas choquer un citoyen qui va se croire lésé dans ses droits personnels? Parce que je pense que vous êtes coltaillé des fois dans tout ça, puis les politiciens ont le dos large, puis souvent, ben, c'est des imbéciles, ils veulent nous gérer. C'est complexe à manœuvrer, non?
C'est très complexe. Puis un élément sur lequel Respect citoyen a quelque chose, là, a une prise, c'est la question des communications. Parce qu'au final, c'est là que ça se joue. C'est dans la perception d'opinion publique, à savoir est-ce que justement c'est du contrôle des citoyens ou c'est une mesure qui est légitime et qui vise un objectif sociétal qui est bon et juste. Là. Donc, mais tout ça, ça se joue pratiquement juste sur une question de communication, un message qui est martelé, qui est clair, qui est rappelé aussi, là, je vous disais, 2021-2022, ça fait quand même quelques années. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un épisode de smog, ça ne vaudrait pas la peine que le maire fasse une conférence de presse, rappelle l'impact sur la santé publique d'avoir des feux de foyer et un épisode de smog en même temps? Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on l'a déjà expliqué, que c'est bien compris. On parle de gestion de changement. Ça prend du temps, puis il faut continuer de mettre les énergies nécessaires là-dessus. Là.
Alicia, tu parles de communication et tu t'en vas exactement dans l'axe que je voulais aller. On va écouter deux extraits concernant les fameuses pistes cyclables et le déneigement. Okay? Le premier, c'est Stéphane Lachance de Respect citoyen. Avant, je veux bien mettre la table. Il existe sur Google, et c'est notre journaliste, hein, Mathias, qui a fait l'exercice, tu es capable d'aller chercher le nombre de passages qu'il y a par piste cyclable, par jour, par mois, par tranche d'heure. Donc, tu es tout capable de savoir ça. Fait que ça permet à Mathias de nous faire un super beau dossier et de dire « Hey, guys, il y a 4 pistes cyclables qu'on déneige, qu'il n'y a à peu près personne qui passe dessus. Dans le tronçon Rivière-Saint-Charles, où en moyenne, il y a 4 passages, donc 2 personnes aller-retour. » OK? Et il nous a dit, bien, les pistes cyclables, quand je parle à la ville, on parle d'à peu près un budget d'un million pour les déneiger. Fait qu'il dit, il y aurait certainement des économies à faire là. Et voici, lorsque Mathias a posé la question à Stéphane Lachance, puis là, tu comprends que Mathias s'attendait à ce que Stéphane Lachance, il ait fait la recherche aussi sur Google. Il a dit, pourquoi on arrêterait de déneiger les pistes cyclables? Voici la réponse du chef de l'opposition à l'hôtel de ville.
J'étais sur un axe où il y avait une piste cyclable et il y avait un cycliste qui était devant moi et je voyais là, qu'il y avait des problèmes. Là, il n'y avait, selon moi, pas les pneus, en tout cas adaptés pour faire du vélo dans de la neige. Et j'ai ralenti, c'était 50 km la limite de vitesse, et j'ai ralenti à 15-20 km. Et comme de fait, quelques instants plus tard, il a tombé. Et si j'aurais roulé 50, peut-être que je l'aurais frappé. Donc, à un moment donné, il y a dans certains endroits, j'ai des préoccupations à savoir si c'est vraiment justifié de faire ça.
Rigueur, s'il vous plaît, de l'opposition. T'sais, moi, je suis déçu, là, puis je sais que Stéphane voulait récompenser les gens autour de lui, puis qu'il a amené plein de nouveaux en politique, mais là, tu peux pas donner ça comme réponse. Tu peux pas arriver hier à une conférence de presse devant le conseil municipal puis avoir aucun avis de proposition dans les mains, là. C'est ta façon de parler au conseil de ville. Un petit peu de rigueur, s'il vous plaît, de l'opposition.
Mais là, je comprends pas, peut-être que tu vas pouvoir me l'expliquer, j'ai peut-être mal compris, mais est-ce qu'il défendait le déneigement des pistes cyclables en disant si les cyclistes sont pour tomber, ils vont tomber de manière plus sécuritaire?
Ben, c'est exactement ça que moi, c'est ça, moi et Mathias, on comprend pas non plus où il voulait aller avec sa réponse.
Bon, ben oui, effectivement, rigueur, communication, cohérence dans les messages, là. Puis je pense que l'opposition... de manière générale, c'est tout le temps un couteau à double tranchant, mais dans leur message, dans les messages des oppositions en général, tu as toujours plus avantage à avoir un message qui est très clair, qui n'est pas très nuancé, qui est blanc ou qui est noir et qui va venir contraster avec le message de l'administration, du maire, là, dans ce cas-ci, Bruno Marchand. Donc, là, de venir souffler le chaud et le froid, sachant que leur base, la base de Respect citoyen, bien, elle est assurément davantage contre le déneigement des pistes cyclables que pour. Je m'explique mal, là, finalement, cette déclaration-là.
En effet. Et pour continuer sur le même dossier, Mathias a posé la question à Bruno Marchand. Oui, mais M. Marchand, il y a quand même des économies à faire si on ne déneige pas certains tronçons de pistes cyclables où il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Voici sa réponse.
C'est facile de dire, moi, je n'aime pas le vélo, on va couper les pistes cyclables. Parfait. Moi, j'aime pas les patinoires réfrigérées. Je viens de trouver 9,5 millions. J'aime pas les piscines. J'aime pas les centres communautaires. Le centre communautaire, l'argent qu'on s'apprête à mettre dans Paul-Émile Beaulieu, j'aime pas ça, on va le mettre ailleurs. Ce sont des choix politiques. Mais sachez qu'à chaque fois que vous faites un choix, vous déplaisez à du monde qui, eux, vont se manifester à leur tour pour dire « Non, non, ne coupez pas mes affaires à moi. » Une ville, c'est qu'on s'offre des services pour tout le monde.
Alicia, aide-moi. Les pistes cyclables en hiver, l'ensemble du réseau déneigé à 1 million de dollars, il y a 28 cyclistes, parce que c'est 56 passages différents en moyenne par jour. 1 million de dollars. On veut couper des patinoires à 20 000 où il y a plus que 28 jeunes qui vont sur la patinoire. C'est pas une question idéologique. C'est juste un fichier Excel qui me dit où couper. Me trompes-tu?
Mais il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, la déclaration du maire Marchand, elle me semble quand même un peu simpliste, là. Tu sais, les décisions, ils se prennent pas comme ça là, en disant j'aime ou j'aime pas quelque chose, je coupe, là, puis voilà. Et je vais faire le parallèle avec à vélo, parce que c'est la responsabilité du maire, finalement, de défendre ses choix, là, puis de les démontrer que ce sont des bons choix. Donc, avec le déneigement des pistes cyclables, on fonctionne un peu avec le principe de build it and they will come. On le construit, puis après ça, les gens vont venir. C'est difficile de penser qu'il va y avoir des passages sur des pistes cyclables pas déneigées avant qu'ils soient déneigés, finalement. Fait qu'on commence la mesure, puis après ça, on commence à calculer combien de gens il y a. Mais ça, faut que ça se fasse, là. Puis à vélo, on l'a vu, au début, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis à un moment donné, ça a explosé. Mais si ça n'explose pas, ce phénomène-là, s'il n'y a pas de mesure pour faire en sorte que ce soit utilisé, que ça devienne justifiable, ben peut-être qu'il faut remettre certains tronçons en question. Donc, on dirait que ce travail-là de remise en question, Bruno Marchand, un, il ne le fait pas, ou du moins, il ne le fait pas publiquement. Puis deux, il ne défend pas bien son choix à ce moment-là, son principe qui... il pourrait justifier ça en disant « Mais regardez, ça prend quelques années, les études démontrent ailleurs dans le monde, ça a pris entre 2 et 6 ans avant d'avoir une affluence là, qui justifiait le déneigement des pistes cyclables. » C'est pas ces arguments-là très, très terre-à-terre, très pragmatiques.
C'est plus émotif, idéologique. Hein?
Effectivement.
Est-ce qu'il manque de tact? Je vais te poser la question directement, puis je m'excuse, Alicia, peut-être que tu ne devras pas revenir après, mais je sais que tu es capable de répondre bien souvent. Est-ce qu'il manque de tact officiellement ou il fait part de courage politique parce qu'il va de l'avant puis il a été élu, donc ses idées, c'est malgré tout celles qui doivent aller de l'avant parce que c'est ça, la démocratie. Bien qu'on puisse dire qu'il n'y avait pas d'opposition, etc., ça reste qu'il a été élu. Ou réellement, il y a un problème d'attitude avec notre maire Marchand?
Est-ce que c'est du courage? Est-ce que c'est un manque de tact? Je pense que les deux, il va y avoir des gens pour défendre les deux points. Je pense que globalement, Bruno Marchand, si je me mets dans ses souliers, il est peut-être tanné de défendre ça. Il est peut-être juste tanné d'en entendre parler. Fait que c'est peut-être plus la patience qu'il faut dans ce sujet-là. De continuer, là, puis de rester patient, puis continuer d'en parler de manière calme.
Oui, puis on le sait, le maire Marchand est capable d'être impulsif. Alicia Despins, c'est toujours un plaisir de te parler de politique municipale. Merci pour tes éclairages. Et on se reparle certainement la semaine prochaine.
Oui, bonne journée.
Salut, bonne journée. Merci beaucoup. C'est Alicia Despins, ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger et chroniqueuse politique municipale ici à l'antenne de Boulevard 102 à l'émission On en jase.
On en jase. Jusqu'à 14h. On en jase.
Oh, émission On en jase qui se poursuit. On va avoir dans quelques instants une très bonne conversation avec Paul Brunet, qui est le directeur général de la Commission des malades. On ouvre plus d'accès pour des médecins de famille aux patients, notamment aux patients vulnérables. Mais ils n'auront pas nécessairement de médecins de famille d'attitrés. Donc, on va démêler ça avec M. Brunet, puis on va surtout savoir si ça le satisfait par rapport aux patients vulnérables.
J'ai tellement hâte de l'entendre, puis je vais aller en manchette ensuite, Jeff, mais j'avais eu une entrevue avec lui au début quand on commençait à travailler sur le projet de loi avec la CAQ.
Okay? Oui.
Puis il m'avait dit, moi, je suis à la défense des patients et tout ça. C'est mon dernier espoir.
Ouais.
Ce projet de loi-là, c'est mon dernier espoir. On sait ce qui est arrivé.
C'est ça.
On sait où on en est. Ça sera ma première question. Quand j'aurai la parole avec M. Brunet, la première question que je vais lui poser, puis je vais revenir dans le temps avec ça, si tu me permets.
Tu sais quoi? Tu lanceras l'entrevue avec cette question-là.
Parce que je me demande, là, il y en a où côté moral?
Ouais, c'est ça. Il est où son niveau d'espoir sur une échelle d'1 à 10?
Parce qu'il avait été très honnête. Ouais. Après ça, moi, je ne sais plus ce que je fais dans ma job.
Je fais un parallèle boiteux, mais c'est juste parce que j'ai dit échelle 1 à 10. C'est sur blvd.fm. Entrevue ce matin avec Marie-Josée Morancy, présidente et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. J'ai demandé sur une échelle d'1 à 10, votre niveau de confiance que le troisième lien se réalise, elle m'a répondu 0.
Tu sais, ça parle.
Ouais, ça parle.
C'est criant, puis Je le dis d'avance parce que si jamais M. Brunet est à l'écoute, il peut préparer sa réponse.
Oui, exactement.
Je me sens généreuse.
Cool!
Et en manchette, Jeff, c'est sûr qu'on va parler de cette poursuite-là de 400 000 $ contre Bruno Marchand. On a évoqué quand même le tout avec nos collaborateurs. Mais il y a une dame qui s'était présentée au conseil de ville l'an dernier, rappelez-vous, et Bruno Marchand l'avait accusée d'avoir fait un salut nazi en plein conseil municipal. Elle s'appelle Vicky Lépine. On l'avait eue sur les ondes. Tu l'avais bookée dans le show du matin le lendemain de cette situation-là. Et elle avait dit à quel point ça avait miné son état d'esprit, qu'elle comprenait pas ce qui s'était passé. Donc, la citoyenne avait fait des menaces à l'endroit de Bruno Marchand en disant « Hey, je vais te poursuivre si jamais je n'ai pas d'excuses sincères, etc. » Et c'est le cas. Elle a jugé qu'elle n'a pas eu d'excuses sincères. Elle est donc allée déposer officiellement une poursuite. Elle a mis ses menaces à exécution. Elle entend une poursuite de 400 000 $ contre le maire de Québec. C'est un dossier qui est judiciarisé, vous le savez. C'est pourquoi le maire Marchand décide de ne pas faire de commentaires. Et c'était sa raison, soit disant que c'est judiciarisé, alors il ne veut pas aller de l'avant avec un commentaire quelconque. On est un an jour pour jour. Je suis vraiment désolée, je suis malade, là.
On comprend ça, Pascal. Faites ton mieux!
Je suis vraiment désolée. Habituellement, ça ne va pas impliquer un dérèglement dans ma livraison, mais là, je suis là-dedans.
Tout le monde est humain et humaine, ça?
Oui, oui, oui.
Ça tombe bien que tu sois malade. On parlait avec le président de la commission des malades.
Écoute, tout ce qu'il faut en ce moment pour lutter contre cette petite infection. Alors, je reviens à mon dossier. C'est une poursuite qui a été déposée contre le maire Bruno Marchand par cette citoyenne. Monsieur Drainville, Bernard Drainville a dénoncé l'ambivalence de Mme Fréchette, sa collègue, oui, mais aussi sa concurrente dans le fait de faire la course à la chefferie du parti de la CAQ. Et Mme Fréchette s'est pas prononcée sur le troisième lien, n'a pas encore tranché sur la question. Elle est allée d'un tweet aujourd'hui, d'un X, tiens, devrais-je dire, comme quoi elle devrait donner sa position au cours des prochains jours. Mais pour elle, c'est un dossier trop important pour être abordée avec émotivité. Alors, elle dit qu'elle le traite actuellement avec rigueur. C'est pourquoi elle n'a pas réussi à se prononcer sur la question jusqu'à maintenant. Les caquistes, eux, s'entre-déchirent à propos du troisième lien. Donc, on reporte l'annonce des coûts du tracé final après la course à la chefferie. Sinon, ce serait irresponsable de faire avant. Alors, voilà pourquoi est-ce qu'on se déchire à l'interne de la CAQ.
Paul Brunet, directeur général de la Commission des malades, est au bout du fil avec nous. On va parler justement de cette annonce de Sonia Bélanger, la nouvelle ministre de la Santé. Elle est en poste depuis le départ de Christian Dubé. En gros, aujourd'hui, elle a présenté le fait que le gouvernement va transférer 500 000 patients orphelins à des cliniques de médecine familiale par le guichet d'accès unique, le GAP, dont 150 000 patients vulnérables. Toutefois, ceux-ci ne seront pas attitrés à un médecin particulier, mais bien à une clinique en particulier. Alors, on veut justement avoir l'opinion de M. Brunet à cet effet-là. Et Pascal, je te laisse commencer avec ton excellente question.
Bonjour M. Brunet, vous allez bien?
Bonjour à vous deux.
Vous nous reconnaissez, on fait souvent des entrevues avec vous. Et il y a à peu près un an, je vous ai posé la question en onde, à savoir avec le remaniement en santé qui était travaillé par notre ministre, finalement, Christian Dubé. C'était quoi votre espoir? Hein? Comment vous voyez ce remaniement-là? Comment vous voyez la construction, le travail en santé de M. Dubé? Et vous aviez dit que c'était votre dernier espoir. Vous en êtes où maintenant?
Écoutez, il y a deux affaires importantes dont il faut se rappeler. M. Dubé nous a dit qu'il souhaite qu'avec sa réforme, le réseau de la santé devienne un employeur de choix. Bon, on travaille là-dessus présentement. Il y a du monde qui est revenu dans le réseau. Il en manque encore. La deuxième affaire, c'est qu'on a dit que désormais, on ferait en sorte que 1 500 000 patients orphelins seraient pris en charge par des GMF ou des CLSC. Avec l'entente qui est arrivée récemment, on est à 500 000, dont 150 000 pour les gens vulnérables. On aurait voulu que ces gens-là soient automatiquement enregistrés. Ça ne sera pas le cas. Fait que là, il faut, comme je l'ai répété à la ministre la semaine dernière, on veut que les 150 000 patients vulnérables, les personnes avec des maladies chroniques, les gens plus vulnérables dans la société, puissent avoir accès à un professionnel en soins. On sait depuis quelques années que l'affaire de dire chaque citoyen aura son médecin de famille, ça marche pas. Il manque 2000 médecins, fait qu'on n'y arrivera pas. Mais ce qu'on sait, c'est que des fois, c'est pas un médecin qu'on aimerait voir, c'est un autre professionnel en soins, un orthopédiste, un travailleur social, un pharmacien, une infirmière praticienne. Alors, il y a d'autres voies pour se faire soigner, autres que des médecins, quand on n'a pas besoin de voir un médecin. Est-ce que c'est ça qui est annoncé? J'ai pas vu de communiqué, mais si c'est ça qui est annoncé, ben c'est sûr qu'on appuie la ministre Bélanger.
Si je repose ma question d'une autre manière, avez-vous perdu espoir en tout ce qui a trait au système de santé en ce moment, ou ça vous redonne un peu espoir?
Ça me redonne un peu espoir. On aurait voulu un enregistrement automatique, comme le projet de loi 106 le disait. Et tu sais, rappelons-nous, le projet de loi 106, il promettait pas un médecin pour chaque citoyen. C'est pour ça qu'il disait du tout. Mais il prévoyait un enregistrement automatique. L'automatisme est passé. Les médecins ont dit on ne peut pas se faire enregistrer directement 500 000 ou 1 million de patients. On n'arrivera pas. Alors là, on va y aller via les inscriptions, via le GAP. Hey, le GAP est revenu. Santé Québec avait arrêté d'en parler pendant quelques semaines, quelques mois avant les fêtes. Puis là, c'est revenu au goût du jour. Fait que bravo, parce que le GAP, je pense que ça marchait quand même. Oui, il y a des ratés. Mais en général, on réussit à obtenir un rendez-vous avec un professionnel en soins après avoir pu parler au 8-1-1 ou s'être inscrit. Cela dit, oui, je demeure optimiste. J'ai le choix. Les patients ont tellement besoin d'être défendus et qu'on parle pour eux, grâce à vous, des médias, entre autres. Et on va continuer à le faire, que ce soit dans les médias, en commission parlementaire, quand on est invité. On lâche pas, parce que c'est l'œuvre de mon frère Claude qui a fondé il y a 51 ans. Il ne faut pas arrêter ça, là.
En effet. Monsieur Brunet, est-ce que vous craignez pour les patients vulnérables que la procédure d'inscription soit trop complexe et que, justement, ça les rébute?
Oui. Ça, c'est ça qui m'inquiète le plus. Comme je vous l'ai dit lors d'une conférence de presse la semaine dernière, j'avais dit à Mme Bélanger, j'ai eu l'occasion de m'entretenir quelques minutes avec elle. J'espère qu'on n'oubliera pas les patients vulnérables. C'est eux autres qui ont le plus besoin. Et je compte sur les médecins et sur le gouvernement, parce que c'est une entente à deux, qu'on mette tous les mécanismes en place pour que ces gens-là puissent s'inscrire le plus facilement possible. Que ce soit au 8-1-1, souvent les gens n'ont pas accès à Internet ou ne savent pas comment ça marche. Mais au moins que par le 8-1-1, on puisse parler à quelqu'un qui va nous inscrire. Je compte sur eux, parce que là, c'est un accord, c'est un engagement mutuel. Fait que là, il n'y a plus de chicane. On est supposé travailler ensemble pour que les choses s'améliorent et surtout que ces gens-là, en particulier, soient inscrits.
Est-ce qu'on va vous voir? Est-ce qu'on vous demande conseil? Est-ce qu'on vous implique? Est-ce que, parce que ça a été énormément déploré lors de l'application du dernier projet de loi, du moins du dépôt du dernier projet de loi, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à l'appliquer, là. On s'est bien rendu compte que ça faisait trop de dommages.
Oui, mais je sens un peu de nervosité. On a déjà été plus impliqué que ça. Remarquez que la semaine prochaine, je suis invité dans le cadre d'un autre projet de loi 15 sur les modifications au code de profession. Fait que ça doit être qu'on n'est pas trop tassé par le gouvernement. Mais il y a quand même, on sent une certaine nervosité. Les élections s'en viennent. La CAQ aimerait ça faire bien, comme les autres partis d'ailleurs. Alors, on sent un peu de nervosité, mais nous, écoute, ça fait 51 ans qu'on existe. Moi, ça fait 28 ans que je prends de parole. Je n'arrêterai pas demain matin parce qu'il y a de la nervosité dans l'air, surtout quand on a l'appui des médias.
Pour rappel, on parle avec Paul Brunet, directeur général de la Commission des malades. Monsieur Brunet, en terminant, les négociations sont réglées avec les médecins omnipraticiens du Québec, mais elles s'étirent en longueur avec les médecins spécialistes. Oui. Quelles sont vos demandes par rapport justement aux médecins spécialistes? Je sais qu'il y a une longue liste d'attentes, mais quelles sont vos demandes concrètes?
On veut que quand il y a une référence par un omnipraticien, un médecin de famille, qu'il y ait un accès plus rapide aux médecins spécialistes. Je sais qu'il y a des centres où on reçoit des requêtes centralisées de demandes de services. Là, je pense que c'est le CRBQ, si je ne m'abuse. On aimerait ça que ça soit plus efficace, parce que même les spécialistes se plaignent que ce centre-là, je sais pas qu'ils travaillent là-dedans, là. Il faut peut-être que ça bouge un peu plus vite parce qu'il y a des spécialistes qui sont disponibles, qui sont disposés, qui s'apprennent. Alors, il faut que l'État soit plus efficace. On voulait que les médecins soient plus efficaces. Il faut que l'État suive. La machine doit suivre. Et je l'ai dit encore, c'est drôle de parler de ça, parce que je l'ai dit encore, Mme Bélanger, c'est souvent pas les politiques qui sont adoptées, qui sont en cause. C'est la machine qui ne suit pas.
Ah, oh, vous avez tellement raison. Suive.
Il y a 5000 fonctionnaires dans le réseau de la santé de plus qu'en 2018. Pas normal. Il faut que ça bouge. On est content d'avoir des fonctionnaires, mais il faut que ça bouge, il faut que ça opère. Sinon, Rappelez-vous, M. Drainville a dit qu'il ferait le ménage là-dedans. Fait que pour faire être monté qu'on est là pour les patients et qu'on veut opérer pour être plus efficace que n'importe qui d'autre, y compris que le privé.
Paul Brunet est directeur général de la Commission des malades. C'est toujours un plaisir de parler avec vous en ondes, M. Brunet. Puis je garde votre numéro en note là, pour pouvoir vous parler lorsque les négociations avec les médecins spécialistes aboutiront ou s'étireront en longueur. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va s'en aller.
Allez, bonne journée.
Merci. Bonne journée, M. Brunet. Pascal CV. T'aimes la moto, toi, me semble.
Moi, j'adore.
Oui, t'es une fan de moto. Hein? Mais là, tu pars en vacances 2 semaines.
Oui.
Parce que, tu sais, moi, je t'aurais donné une paire de billets pour le salon Expo Moto.
Tu m'aurais créé des besoins.
J'aurais dit, Pascal, vas-y, toi, t'aimes la moto, va-t'en là, achète-toi une nouvelle moto.
C'est une bonne chose, tu me crées pas de besoins.
Mais là, tu pars en vacances.
Il y a des gens, il va falloir qu'ils aillent.
Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai décidé, parce que, tu sais, c'est moi qui ai les billets, c'est pas Boulevard, là, en passant. Là. C'est pas votre citation préférée. C'est Jeff Fortin qui est bien dans ses mains. J'ai décidé que j'allais donner ça à un auditeur ou une auditrice.
C'est une bonne chose.
Qui voudrait aller à l'Expo Moto du 13 au 15 février prochain au Centre de foire de Québec. C'est plus de 400 motos neuves et d'occasion. C'est là que tu dis que je t'aurais créé un besoin. Hein?
Oui, vraiment.
T'en partais avec quelque chose. Hein?
Oui.
C'est des conférences exclusives sur la scène XPN, toujours intéressant. C'est des rencontres avec Michel Barrette, Hugo Girard et Jean-Sébastien Roy. C'est lequel tu serais allé voir le plus?
Hugo Girard. Je ne vois pas venir sur une moto, je m'excuse.
C'est vrai, c'est Girard, là,
il y a beaucoup de questions.
Et plus encore. Donc, vous voudriez participer, vous voudriez y aller, c'est facile. Textez au 418-971-1021. 418-971-1021 avec votre nom. Et votre numéro de téléphone, on va faire ça bien simple, Pascal. Là. Textez, merci Pascal, parce que c'est parce qu'elle part en vacances.
Que
vous avez la peur de bien. Sinon, j'y donnais elle. J'y donnais. Fait que textez, merci Pascal, au 418-971-1021. Et parmi tous ceux qui vont avoir texté, au hasard, nous allons faire un gagnant d'une paire de laissez-passer pour le salon Expo Moto du 13 au 15 février. Et pour en savoir plus, bien, c'est Expo Moto. .ca. Alors, je le répète, textez 418-971-1021. Merci, Pascal, avec votre nom et votre numéro de téléphone. Et au hasard, on fait un gagnant. Après la pause, Pascal, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut déchirer sa chemise.
Oui, ces temps-ci, il y en a beaucoup à dire.
Ouais, c'est ça. Là, je pense qu'il veut vraiment déchirer sa chemise parce qu'il est écœuré d'entendre parler. On le fait-tu? On le fait-tu pas? On le fait où? Qu'est-ce qu'on fait? Troisième lien? Québec?
C'est un ancien de la politique. Fait que lui, s'il décide qu'on branle dans le manche, ça veut dire qu'il n'aurait pas vraiment joué sa carte comme ça s'il était encore au sein d'un parti politique.
Exactement. Fait qu'on parle de ça avec Lambert Drainville après la pause. Et il n'y a pas de bonne humeur avec ce dossier du troisième lien. L'émission en jase, votre émission du midi. Il est présentement 13h10. On va essayer de sauver Pascal CV jusqu'à vendredi.
Écoute, je suis vraiment sur un bon air d'aller. Je trouve que c'est moins pire que lundi. Là.
Je le sais, je t'agace.
Mais ils nous ont pollué avec leur virus depuis novembre, nos collègues.
Exactement.
On a survécu, mais moi, je viens de perdre au combat. Ouais. Il reste toi. Mais j'essaie vraiment de tout faire pour t'éviter ça.
Ah, je le sais. Je suis convaincu que ça va fonctionner. 418-971-1021. Pour nous joindre par texto, puis je suis certain que vous allez réagir à la prochaine chronique de Lambert Drainville. BLVD.fm, c'est les meilleurs moments. La chronique de Lambert va se retrouver après l'émission. Ça inclut la web radio, notre application Boulevard 102.1, disponible sur App Store et Google Play Store. Vous pouvez venir nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM et également abonnez-vous à notre page YouTube. Vous avez du contenu exclusif. Notamment le podcast que j'ai enregistré pour la semaine de prévention du suicide avec mon cousin Eric.
C'est le clin d'œil que je voulais faire parce que je l'ai écouté, puis honnêtement, c'est fort intéressant. C'est super touchant.
Merci.
C'est rare qu'on a ces discours-là, en fait, de gens qui l'ont vécu. Puis pour Eric, il fait beaucoup de conférences, c'est une chose, mais de l'entendre de ta bouche aussi, Jeff, ça a été vraiment généreux.
Mais c'est donc bien gentil.
Je vous invite à aller l'écouter.
C'est vraiment gentil. On a fait pleurer nos matantes, ils nous ont écrit.
Nos matantes, oui. Je pense pas juste vos matantes.
Ils ont dit, on est tellement heureux que vous soyez en vie. Puis c'est vrai, c'est un beau message d'amour. Puis on est bien content d'être là aussi. Ma blonde m'écrit tantôt pour me dire, je te sens fragile cette semaine. Puis c'est vrai, c'est une fin de semaine où je suis plus pensif.
À cause
la semaine nationale de prévention du suicide.
Oui,
vraiment. Okay. Je l'avais avisé avant. Le dimanche, j'avais dit, j'ai dit
ça
cette semaine.
Ça fait quoi, mettons?
Ça me fait quoi? C'est juste que je réfléchis. On dirait que je réfléchis un peu plus. Je suis comme un peu plus latent.
Tu réfléchis à ce que tu as, à comment tu te sens, ou tu réfléchis à Colin, en moins je suis passé dans
Je réfléchis à la passe que j'ai eue.
Okay.
Je sais pas si c'est positif ou négatif.
Ça semble-tu loin?
Ouais, ça me semble très loin. Je suis très loin de ça, exactement. Mais je réfléchis à ça. Des fois, j'essaye de recomprendre un peu comment ça, j'ai vécu ça. Puis,
comment tu t'es rendu là?
Ouais, exactement.
De voir peut-être à maintenant en amont les petits signaux.
Ouais, exactement. Fait que c'est ça.
Mais c'est correct. Je pense que c'est sain.
Ben, moi, je trouve ça très sain, honnêtement. Puis j'avais avisé ma conjointe avant. J'avais dit, hey, cette semaine, ça va être une semaine plus spéciale au niveau émotif.
Déjà, tu l'as reconnu, mais je pense que de s'offrir cette possibilité-là d'être... Moi, j'aime quelque chose, là, puis c'est ma psy. Moi, j'ai une psy depuis toujours. Là. C'est quelque chose qui était vraiment, vraiment ouvert et sans tabou dans la famille quand mes parents se sont séparés. Puis elle a déjà dit, sois bienveillante envers toi.
Ah, c'est tellement bien dit.
Traite-toi comme tu traiterais tes amis.
Ouais.
Puis après ça, quand tu voudras travailler sur toi, pose-toi toujours la question... Si tu te rends compte maintenant, est-ce que tu es ami avec toi-même?
Hey, j'aime ça!
Est-ce que tu te plais assez pour dire, hey, moi, je serais ami avec toi?
Ouais.
Puis là, ça te permet de travailler sur quelques points.
Ah, j'aime ça, je retiens ça. Excellent conseil, excellent conseil. On va aller rejoindre Lambert Drainville, un chroniqueur politique ici à Boulevard 102.1, un vulgarisateur d'actualité sur les médias sociaux. Mais là, on va aller voir son petit côté, puis c'est toi, Pascal, qui me fait penser à ça avant la pause. Son petit côté, j'ai déjà travaillé pour un parti politique, comment ça fonctionne, la patente, parce que là, la CAQ a enterré, déterré, puis là, je pourrais continuer comme ça pendant encore 2 minutes, le projet du troisième lien.
En plus d'avoir joué avec leur crédibilité.
En plein ça. Donc, Lambert Drainville... Si tu étais le conseiller ultime de la coalition Avenir Québec, qu'est-ce que tu aurais dit à Jonathan Julien, ministre des Transports, pendant cette course à la chefferie?
Bon, on s'en est déjà parlé, Jeff. Avant de commencer sur ce sujet-là, par contre, je vais prendre le temps de te dire bravo là, pour le sujet.
Ah,
dont
merci
avant
beaucoup.
Que j'arrive. Je trouve que ça prend du courage pour en parler en ondes comme ça, ouvertement. T'as l'air bien dans ta peau. T'as l'air d'avoir beaucoup appris de cette époque-là, cette épreuve-là. Puis on s'en est parlé vendredi avec Farnell sur un tout autre sujet, avec un tout autre angle par rapport au féminicide qui marque ce début d'année 2026. Il y en a eu un sixième, d'ailleurs, depuis qu'on s'est parlé.
C'est tellement triste.
Terrible. On avait terminé en se disant, les gars, n'hésitez pas, particulièrement les gars, tout le monde, mais particulièrement les hommes qui hésitent toujours trop longtemps et trop souvent à aller chercher de l'aide. Je pense que tu peux être un beau modèle pour les gens qui sont à l'écoute à ce niveau-là. Alors, je tenais à le mentionner.
Hey, merci beaucoup. Puis, petite parenthèse, après le podcast, j'ai reçu une invitation. Je vais aller donner ma première conférence.
Oh.
Lundi, le 6 avril, au Collège Champigny aux jeunes de secondaire 5, dans une semaine, justement, de développement personnel.
Extraordinaire. Félicitations.
Alors, j'ai très hâte. Je suis full excité.
Oui, félicitations. Les jeunes ont beaucoup à apprendre de ton histoire.
Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit apprendre si on veut se lancer en politique, Lambert? Moi, je suis Jeff Fortin, puis je veux me lancer mon parti politique. Là. Je dis, OK, moi, je vais créer quelque chose. Je vais faire quelque chose qui n'a jamais existé, Pascal. Je vais créer une coalition entre des gens qui sont de l'aile bleue et des gens qui sont de l'aile rouge. Puis là, je vais leur dire, nous, on est des nationalistes, on est identitaire et on s'en va par en avant, puis on va réaliser nos projets. Donc, est-ce que je copie le modèle de la coalition qui existe présentement, Lambert, pour le projet du troisième lien?
Écoute, c'est sûr que tu connais déjà la réponse à cette question-là. Je vais te dire plus largement, en politique, il y a un prix à changer d'idée. Tu sais, ça, je pense que c'est important de le dire.
Hey, c'est intéressant.
Oui, il y a un prix politique à payer à changer d'idée. Tu sais, la carte de « je me suis trompé, j'ai changé d'idée », c'est une carte que tu peux jouer un certain nombre de fois. Puis on le voit avec M. Legault, ça lui a été très utile dans le premier mandat. Il y avait l'humilité, puis il y avait la hauteur de dire « écoutez, je me suis trompé sur telle décision ». Je change ma chemise de bord et on va aller dans cette direction-là après mûre réflexion. Malheureusement, quand tu joues trop souvent cette carte-là, mais là, à un certain moment donné, le prix politique à payer pour un changement de position devient exponentiellement plus grand. Et écoute, c'est drôle parce que ça me fait penser un petit peu à la situation de Paul Saint-Pierre Plamondon présentement. Là, puis là, tu vas penser que je suis un peu champ gauche avec ça, mais tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, en étant tellement catégorique sur le fait qu'il voulait un référendum dans un premier mandat. Il l'est depuis que l'époque où personne ne savait c'était qui, Paul Saint-Pierre Plamondon, jusqu'à aujourd'hui où il est premier dans les sondages depuis plus de 2 ans. T'sais, je pense que le fait d'être conséquent sur, puis on s'en est déjà parlé, sur la question nationale, ça contribue au personnage d'un gars qui pense telle affaire, puis qui ne changera pas d'idée, puis qui va aller au bout de ses idées. Et là, mets-toi dans sa peau, parce qu'avec tout ce qui se passe avec Trump, avec tout ce qui se passe avec les tarifs, avec toute la situation qui est absolument instable économiquement, Il n'y a jamais eu, en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu un aussi mauvais timing pour le mouvement souverainiste que de dire, ben là, on va se séparer du Canada, puis on va encore plus diminuer notre rapport de force. Fait que c'est sûr que si nous, on en discute de ça, ben au PQ, ça fait discuter aussi. Et je reviens à mon point de dire, ben il est un peu pris avec ça, tu sais, parce que d'un côté, c'est pas le bon moment nécessairement, le timing n'est pas idéal pour le projet de pays, mais d'un autre côté, ce qui a fait sa grande force, c'est d'être conséquent, puis c'est de ne pas changer d'idée. Et c'est là où est-ce que le prix politique de dire, ben si PSPP changeait d'idée, puis disait, ben finalement, le référendum, on le fera pas tout de suite, on va le pousser dans le deuxième mandat, ce prix politique-là risque d'être énormément élevé. Et c'est pourquoi, dans l'équipe de Paul Saint-Pierre Plamondon, je ne pense pas que c'est une réflexion qui a lieu là, ou qui est sérieuse par rapport à une possibilité de changer d'avis sur cette question-là. Et ce qui nous ramène au troisième lien, Jean-François, il a quitté la CAQ, M. Legault a annoncé qu'il quittait la CAQ récemment, et là, toutes les analyses de comment il en est venu à être le premier ministre le plus populaire durant la pandémie, à de loin le plus impopulaire au pays. Qu'est-ce qui ressortait de toutes ces analyses-là quand on disait quel est le dossier qui a été le début de la descente aux enfers dans les sondages de la CAQ?
Le troisième lien.
Et voilà, le troisième lien. Et là, j'en reviens pas qu'on soit encore en train de parler de ça. Je vais essayer de rester calme, mais tabarouette, là, c'est le gars de Québec en moi qui parle. Et j'ai parlé au cabinet du ministre et je comprends les raisons. Ce qu'il dit, c'est « Écoute, Lambert, on peut pas aller en appel d'offres à l'international et demander à des entreprises de soumissionner sur le possible projet du troisième lien parce que, présentement, on sait pas qui sera le prochain premier ministre du Québec et dans deux mois et on ne sait pas si cette prochaine première ou premier ministre-là est en faveur ou non du troisième lien. » En raison, évidemment, des propos de Mme Fréchette qui disait souhaiter l'analyser avec rigueur. Ce sont ces mots, le projet de troisième lien. Jeff et Pascal, me semble que l'analyser avec rigueur, là, il me semble que c'est rien que ça qu'ils font depuis 7 ans, l'analyser avec rigueur, le projet de troisième lien. Alors là... Je comprends là, que c'est pas évident, mais c'est un beau dossier qui démontre la complexité, toute la complexité qui vient avec le fait de dire ben on va garder le Parlement ouvert, on va continuer de faire avancer nos projets de loi, puis on va continuer de gouverner malgré la course à la chefferie et les deux candidats qui prennent des positions divergentes à la CAQ de François Legault. Mais là, ça exemplifie parfaitement bien comment c'est pas facile de dire, ben on n'arrêtera pas de gouverner malgré la course à la chefferie, on va continuer. Mais là, tu vois à quel point c'est complexe parce que tu as des candidats qui se positionnent d'une façon puis d'une autre. Là, ça crée de l'incertitude sur l'avenir de ce projet-là parce que Mme Fréchette semble aussi enthousiaste à l'idée d'un troisième lien que quand ma mère me demandait de sourire quand je voyais ma tante Bisou mouillée débarquer à Noël. Et là, c'est sûr que pour le ministre des Transports, ça le met dans une position délicate, on le comprend, mais c'est pas un dossier comme les autres, le troisième lien. Et quand tu dis « on va rester là et on va continuer de gouverner », je m'excuse, mais si tu as décidé que tu décides, excusez-moi, de gouverner, eh bien, tabarouette, le premier ministre est celui en poste jusqu'au 12 avril et c'est lui qui prend les décisions jusqu'au 12 avril. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas ça la consigne et qu'on laisse la course à la chefferie empiéter sur la gestion, la gouvernance de l'État. Mais là, ça a atteint un niveau complètement loufoque de... Ça suffit, là. Pro-troisième lien.
C'est-tu fini pour la CAQ, du moins pour les prochaines élections ou la prochaine élection, tiens, je vais le dire comme ça. Lambert.
Non, c'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est une affaire qu'on sait, là, Pascal. Là,
Lambert est un believer.
Non, mais je suis pas un believer. C'est juste que, tu sais, on a des exemples assez récents, messieurs, dames, de comment la politique, ça peut virer de bord en bord dans 2 semaines, là, qu'on regarde la crise au Parti libéral, qu'on regarde tout ce qui s'est passé avec Trump, Carney, Poilievre. Tu sais, les exemples des derniers mois sont nombreux là, sur comment la politique, ça peut changer vite. Fait qu'on n'est pas rendu là encore. Mais dans une perspective d'apprentissage, j'apprends de mes leçons, Je veux dire, s'il y a un seul dossier sur lequel, malheureusement, tu n'as pas de marge de manœuvre pour changer ta position, c'est le troisième lien. Et encore une fois, pour moi, c'est une preuve d'amateurisme politique. À qui revient la faute? Ben un peu à tout le monde.
T'as l'air fâché. C'est pas vrai. Tu es passionné. On aime ça. C'est zéro un reproche. Qu'est-ce qui te passionne autant, par contre, Lambert, point d'interrogation dans ce sujet?
Ben moi, j'étais un gars de Québec. Moi, je l'ai vécu durant tout mon cégep, le trafic sur les deux rives, le matin et puis le soir. Ma soeur habite à Lévis depuis 2 ans. Pour moi, le troisième lien, là, c'est un... Tu sais, c'est un débat qui... En tout cas, c'est mon avis personnel, mais tu sais, je veux dire, est-ce que Québec est une des régions au Québec qui a la plus forte croissance de sa population et qui aura la plus forte croissance de sa population pour les années à venir? La réponse, c'est oui. Et à ce titre-là, on a déjà du trafic le matin puis le soir. Il suffit d'être dans son char pour le remarquer. Donc là, la population va aller en augmentant de façon quand même rapide. Est-ce que ce trafic-là ira en diminuant? J'en doute beaucoup. On a 2 ponts collés côte à côte qui sont vieillissants. On sait qu'il va en falloir un troisième, que ce soit cette année, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 20 ans. On sait qu'il va en falloir un à un moment donné, que ce soit pour les raisons de sécurité économique dont on nous parle depuis quelques mois, ou que ce soit pour la simple et bonne raison que la population n'arrêtera pas de grandir à Québec. OK? Et là, du moment que tu sais qu'il va t'en falloir un puis qu'un troisième lien, ça ne se construit pas en dedans de 2 semaines, que ce soit dans 1 an, dans 5 ans ou dans 20 ans, si on sait une chose qui est certaine, encore une fois, c'est que le prix n'ira pas en diminuant dans 1 an, dans 5 ans ou dans 20 ans. Fait que du moment que tu en as besoin d'un, puis du moment que ça fait 2 campagnes électorales, puis là, ils s'enlignent pour une troisième, visiblement, en train de le monde de Québec pour des zinzins, à promettre ce projet structurant-là, et que là, rajoute à ça que quand le gouvernement se lève en période de questions, questionné par l'opposition sur son bilan en capitale nationale, le berceau de la naissance de la troisième voie de la CAQ, le ministre responsable de la région se lève et dit « Oui, mais Madame la Présidente, on a fait la troisième partie de la promenade Samuel de Champlain. » C'est ça notre bilan à Québec.
Après 8 ans...
Moi, je m'excuse, là, en tant que gars de Québec, je trouve ça franchement gênant. Et encore une fois, de refaire le fling-flang sur le troisième lien, de rechanger de position, c'est une insulte envers les gens de Québec, qu'ils soient pour ou contre le troisième lien. Alors voilà.
Lambert Drainville, j'adore quand t'es passionné comme ça. Vraiment,
ça
vraiment.
Ça fait bien réagir nos auditeurs.
Oh oui. Lambert, on termine très rapidement parce que là, tu t'es enflammé sur le troisième lien puis j'ai adoré puis il n'était pas question que je t'arrête. Mais je veux juste te parler d'une situation très drôle que j'ai trouvé hier à l'Assemblée nationale. Marois Risky revient en tant que députée indépendante. Elle s'assoit dans l'aile des députés indépendants parce qu'ils sont rendus plus nombreux que le Parti québécois. Et qui n'est pas assis à côté d'elle? Sona Lacoyenne, Olivier. C'était une situation complètement invraisemblable.
Oui, écoute, puis rajoute à ça, tu sais, Lionel Carman qui est avec Christian Dubé à côté parce qu'il était pas, parce qu'il a quitté parce qu'il était pas content de sa loi. Puis finalement, lui aussi a quitté parce que le PM et a pas respecté du tout l'essence de sa loi. Écoute, c'était digne d'une, tu sais, d'un épisode d'Infoman là, de les voir dans le coin comme ça. Écoute, c'est très délicat la situation au Parti libéral. Puis bien honnêtement. Ça va être tout un premier défi pour Charles Milliard. Là. On peut-tu s'entendre, messieurs, dames, que j'espère qu'il est déjà en train de réfléchir à comment il va gérer tout ça, parce que là, t'as comme une espèce de bataille à travers les médias interposés de la version de Marois versus la version de Geneviève Hinze. Mais là, quand ils sortent publiquement, ils disent que c'est sous enquête, fait qu'ils veulent pas commenter. Puis là, ben.
Mais ils coulent des documents des médias. T'sais. Ils veulent pas commenter, mais on va couler ça dans les médias.
Exact. Fait que là, tout ce coulage-là nourrit évidemment le feu qui garde en vie toute cette question-là. Rajoute à ça les résultats des différentes enquêtes qui vont tomber l'un après l'autre au courant des prochains mois. À un moment donné, Charles Milliard va devoir trouver une façon de faire une rupture avec l'ère Pablo Rodriguez parce que sinon, il va être constamment empêtré dans... C'est cette question-là de financement puis de fling-flang par rapport à l'éthique. Alors, de quelle façon est-ce qu'il va marquer cette cassure-là? Bien là, il y a plusieurs options qui s'offrent à lui, mais c'est sûr qu'il va devoir décider qu'est-ce qu'il fait avec ses joueurs majeurs, son leader, son whip, Martin Gay, M. Deragy, mais surtout, qu'est-ce qu'il va faire avec Marois? Parce que l'enjeu avec Marois Riski, c'est que présentement, dans la population, elle a la réputation d'être celle qui a vraiment fait ça pour respecter l'éthique, mm-hmm. puis qui a mis l'éthique devant ses propres intérêts et ceux du parti. Mais de l'autre côté, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur des élus du Parti libéral qui sont vraiment pas contents de la manière avec laquelle elle a procédé, qu'ils pensent qu'elle aurait pu arriver au même résultat sans jeter le parti et l'ancien chef en dessous de l'autobus de la manière qu'elle l'a fait. J'ai tendance à être un petit peu d'accord avec ça parce que des histoires d'employés politiques qui travaillent les soirs et les fins de semaine pour le parti, donc qui ont une mission partisane, ça arrive depuis la nuit des temps, messieurs, dames.
Oui, non, je comprends très, très, très bien. Puis Lambert, t'es pas le premier analyste politique à nous le dire. Alors, ça va être un dossier à suivre. Là, il y a Marc Tanguay, entre autres, qui a fait des sorties publiques. On le voyait qui n'était pas très d'accord avec Marois Riski. Vous l'aimez comme nous, on l'aime. Comme Lisette vient de nous écrire.
Lambert, je t'aime. Merci pour ton intervention.
Chaque mercredi aux alentours de 13h15, chronique avec Lambert Drainville. Les vendredis, c'est à midi, un duo Lambert Drainville, Farnell, Morisset. Vous ne voulez pas manquer ça. Lambert, toujours un bonheur, mon chum.
Toujours un plaisir, la gang. Passez une belle journée. On se parle vendredi.
Salut, bonne journée. Lambert Drainville. Je me rends compte qu'il y a vraiment une différence entre du monde qui ont travaillé dans le staff politique et du monde comme moi et toi, puis nos auditeurs qui n'ont pas vécu là-dedans. Parce que, tu sais, nous, là, on a plus tendance à croire Marois Riski qui est parti au bat parce que là, avec ce qu'on a su après ça, les brownies, les millefeuilles, etc. Mais ceux qui ont travaillé dans le staff politique, comme Lambert, comme Antonine, comme Victor, ils disent « Ouais, aurait dû se fier au parti. »
La seule chose, OK? Là, j'aurais un grand débat d'idées avec toi. Là, puis j'embarquerais même Farnell. Tu sais, ça pourrait être un vendredi, le débat.
Fortin,
CV, Farnell, puis Lambert, Drainville là-dessus. Oui, jusqu'à temps que. Eux autres, ils ont la formule politique. Ils ont été et ils ont dû manœuvrer dans des discours politiques. Mm-hmm. Choses qui sont souvent déplorées par la population. Même cassette. Vous nous dites qu'on veut entendre, mais on voit en arrière que vous défendez l'indéfendable. Ils ont la particularité de devoir parler en politicien. Fait que quand ils ont de l'information de l'intérieur, c'est super bon pour nous parce que là, ils peuvent nous faire changer la vision de « Hey, c'est quoi finalement le politicien qui souhaitait vraiment dans sa déclaration? » Mais ils ont aussi un genre d'intérêt à ne pas tout dire parce qu'ils savent les impacts, ils connaissent les impacts que ça peut avoir en société.
C'est bon, ça.
Mais nous, des fois, on les veut, ces impacts-là.
Puis nous autres, on dit tout à la radio.
Parce que c'est fait changer les choses.
T'as raison.
Tu sais, le Parti libéral, c'est la gangrène est pognée, là. On doit le savoir. Parce qu'il y a bien des rouages de la politique qu'on ne connaît pas. Puis c'est super important qu'on les connaisse, finalement, si on veut voter autrement puis assurément faire changer les choses qui nous dérangent en ce moment.
Puis évidemment, un parti corrompu, bien, ça a une incidence sur le vote.
Écoute, je pense qu'à table, là, à taverne, là, tout le monde, dans le discours qu'on vient d'évoquer, est efficace.
T'as entièrement raison. Pascal CV, après la pause. On parle de ces nouvelles faites avec l'intelligence artificielle, mais qui sont fausses. Hey, Cole Caulfield prendrait soin d'un enfant qui a le cancer. C'est pas vrai! Mais on nous fait croire ça, ces médias sociaux.
Ça pourrait être pire. On pourrait dire que Cole Caulfield est à la tête d'un réseau de prostitution. Là.
Apparemment,
nouvelle, tu comprends, mais...
apparemment qu'il vend des midoves. Il veut pas jouer pour le Canadien. Il veut juste du salaire. Mais c'est pas vrai! On parle de ça avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, après cette courte pause à Boulevard 101. Tu ris de mes exemples du Canadien?
Un petit peu.
Après la pause. Il est exactement 13h38 minutes. Vous êtes à l'écoute de l'émission Dans Jase sur Boulevard 102.1. Le retour de Gravel avec Denis Véraud et Audrey qui suit. 16h30, Mathias Turcotte en ondes. Pour revenir avec les informations de cette conférence de presse qui vient de commencer avec un expert dont on ne connaissait pas le nom. Mathias doit le savoir, là, présentement, c'est quoi son nom? Sur la pollution avec les particules de bois. C'est une conférence de presse de respect citoyen. Alors, restez à l'écoute de Gravel dans le retour pour en savoir plus. L'intelligence artificielle a des bons côtés, mais elle a également des mauvais côtés, Pascal. Et c'est celle de produire, comme dirait Donald Trump, des fake news.
T'sais, il y a des fake news plus dommageables que d'autres, mettons.
Oui, il y a des fake news plus dommageables que d'autres. Mais hier, il y a eu vraiment une fake news dommageable. Steve Waterhouse, qui est en ligne, qui est un expert en cybersécurité, ex des Forces armées canadiennes. Et là, Steve, tu vas être d'accord avec moi. Hier, il y a eu une nouvelle produite par l'intelligence artificielle très dommageable pour les partisans du Canadien de Montréal qui ont lu que Ivan Demidov, Montréal, il s'en sacrait. C'est de l'argent qu'il voulait. Le cœur des partisans du Canadien a lâché en raison de l'intelligence artificielle. Steve, c'est catastrophique.
Oui, et c'est là qu'il faut faire attention, parce que ça peut devenir un enjeu de santé publique aussi, là, parce que
ben
là,
oui,
les gens vont commencer à consommer davantage, puis là, ben, les consultations psychologiques, ben, ouais, donc, là.
Exactement.
Faut faire attention, c'est vrai.
Tu vois, j'aime vraiment ton point de vue, Steve, parce que là, Pascal se moquait de moi avec la nouvelle sur Demidov.
Je m'excuse.
Mais vraiment, j'aime ton point de vue au niveau de la santé publique. Plus sérieusement, Steve, ça envahit Facebook de tout part, puis là, ça peut être pour des fake news très dommageables sur la réputation de gens à la simple anecdote sportive, comme j'ai mentionné. Mais c'est un vrai fléau, un vrai problème là, en matière de cybersécurité.
Bon, mais c'est pas la première fois ici, entre nous autres, qu'on en parle. Et tout ce qui provient des médias sociaux, là, désolé, mais ça, c'est, pour moi, c'est de la rumeur. Tant qu'on ne peut pas confirmer les faits, quand on reçoit aujourd'hui, en 2026, là, de l'information qui nous arrive par texto, par la voix, par courriel, c'est, tant que c'est pas vérifié, à l'état rumeur, puis ça va rester comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez bien énuméré, là, cette situation-là, c'est donc de la fausse information qui a été générée par des artifices et qui, après ça, là, continue de circuler et les gens se réamplifient ça parce que très peu vont aller au fond des choses et connaître. C'est-tu vrai ou pas vrai? C'est qui l'auteur qui est derrière? Et après ça, ben, quelle est la position officielle du club? Parce que quand il y a quelque chose de même qui sort, là, généralement, le club va émettre un communiqué officiel si jamais c'est vrai. Mais le restant du temps, là, c'est du n'importe quoi qui est généré ici puis là.
Oui, mais je pense qu'on a perdu un peu cette possibilité-là d'être certain de ce qu'on voit. Là. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut être sceptique sur tout ou c'est trop une position difficile à adopter?
Mais Pascal, aujourd'hui, l'information qui nous arrive, elle est fragmentaire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette analogie-là, parce que je me souviens, les bonnes vieilles années, qu'il y avait des éditoriaux qui étaient écrits, il y avait des reporters qui étaient dans chaque pays pour rapporter une nouvelle. Mais là, aujourd'hui, on se fie qu'à une concentration de nouvelles qui arrivent de peu de sources. Et le restant, ben c'est toutes des affaires qui circulent par médias sociaux. Puis la majorité des gens, on l'a vu, statistiques des dernières années, de plus en plus s'informent que par les médias sociaux, là, peu importe lequel. Et donc, qui part une rumeur, ben va devenir mainstream comme idée, puis après ça, ben, ça va devenir justement the talk of the town. Là. Donc, là, tout le monde va en parler parce que ça s'est emballé à un point tel que la balle, elle roule à grande vitesse, puis c'est devenu une vérité. Mais en même temps, quand on regarde le fond de l'histoire, puis on regarde la source d'où ça provient, on peut le dépeindre que c'est pas vrai. Fait que c'est ça qu'il travaille à faire, mais les gens aiment mieux juste rouler sur l'effet du moment, lire la nouvelle 5 secondes, la reproduire, autrement dit la distribuer, c'est ça qui est pas correct. Là.
Au-delà des gens, Steve Waterhouse, est-ce que les médias sociaux peuvent prendre plus de responsabilités par rapport à ça? Et là, je vais pointer en particulier Facebook parce que c'est vu comme étant le média social où il y en a le plus de fake news produits par l'intelligence artificielle.
Ben là-dessus, Jeff, ils n'en ont rien à cirer, honnêtement. Là. Pour eux autres, c'est très lucratif qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'aussitôt qu'il y a un intérêt par un individu de générer là, du conflit et après ça, le repasser, ben, plus souvent qu'il est repassé, pour eux autres, ça génère des statistiques positives et c'est ça qui est très lucratif pour ces entreprises. Fait qu'eux commencent à faire de la modération, à part que le Canada qui voulait avoir un retour sur les nouvelles utilisées par Facebook, puis Facebook il a dit « fuck you », là, on peut plus republier des vraies nouvelles. Ça, c'est un désavantage pour nous, la société canadienne, qu'une vraie nouvelle, on ne peut pas la mettre sur le site de Facebook parce qu'ils disent « Ah, ton gouvernement ne veut pas que je le prenne. » Ben voyons donc. Fait que ça aurait été un moyen de contre-vérifier la vraie information. Mais sinon, une organisation comme Facebook a 2 milliards plus d'usagers sur la planète. Des petites affaires régionales, comme on vient de jaser, là, c'est insignifiant pour eux autres. Fait qu'ils s'en sacrent comme à l'an 40. Et donc, à la place, ça génère des statistiques positives.
Je me demandais si on va pouvoir voir un changement de cap au niveau des réseaux sociaux avec les nouvelles aussi, parce que probablement qu'au moment où on voit quelque chose puis on doute de la véracité et que c'est sur les réseaux sociaux de Meta où on sait que les nouvelles ont été finalement barrées, on peut automatiquement se dire que c'est louche, là. Mais est-ce qu'on va avoir un changement de cap? Est-ce qu'on va revoir des nouvelles sur nos réseaux sociaux?
Il y a des rumeurs qui disent que oui, le gouvernement est en... discussion avec Meta pour ramener ça. Je ne sais pas de quelle façon, combien ça va nous coûter, honnêtement, Pascal, mais ça serait à l'avantage de tout le monde qui ramène la possibilité de faire cet échange-là. Mais tu sais, à travers le monde, quand il est arrivé dans d'autres pays la même situation et que Meta se devait de négocier avec le gouvernement pour qu'il y ait justement un paiement sur les nouvelles régionales, etc., il s'est passé le même scénario. Là, on t'offre ça depuis plus longtemps que les autres. Les autres, dans certains cas, ça a duré 10 jours qu'ils ont abdiqué. Alors nous, est-ce qu'on va juste abdiquer après quelques années d'avoir retenu notre souffle puis dire, Meta, ben, finalement, vous avez raison, on va tempérer. Je pense que c'est ça qui s'en vient. Maintenant, y aurait-tu moyen de faire autrement? Ben oui, j'ai vu Blue Sky, j'ai vu d'autres types de médias sociaux qui ont popé à gauche et à droite d'origine canadienne, mais ça colle pas. Fait que donc, quel est l'entrain de toujours continuer avec les grandes plateformes de ce monde? C'est peut-être ça qui est l'enjeu aussi. Fait qu'une manière, on veut-tu dire, on va couper nos liens d'appartenance et d'utilisation avec la grande plateforme Universal Gazi, là, qui est Meta Facebook. Ça, c'est une autre décision. Fait que les jeunes, il faut qu'ils embarquent eux aussi. Si la population en général n'embarque pas, ça va rester de même.
Steve Waterhouse est expert en cybersécurité et ancien officier des Forces armées canadiennes. Steve, je sais que tu es dans une journée très occupée. Merci de nous avoir accordé ces précieuses minutes et on se dit à la prochaine fois.
Toujours un plaisir. Bonne journée.
Salut, Steve. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Je retiens que les Facebook de ce monde en ont rien à cirer des fausses nouvelles produites par l'intelligence artificielle. Arrangez-vous,
gang
de citoyens.
Nous, c'est des clics, c'est de la visibilité. Vous faites rouler notre économie.
Exactement. Sais-tu ce qui est bon, par exemple, pour les auditeurs de Boulevard? C'est que nous autres, on fait des vraies nouvelles.
Oui, on les vérifie même.
Puis après la pause, on va faire des vraies nouvelles. À de l'allure, ça!
On est prêts!
Restez avec nous à Boulevard 101, l'émission On en jase! 13h50 minutes. Va suivre le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey. Je vous le rappelle, manquez pas l'intervention de Mathias Turcotte qui sera de retour de la conférence de presse de Respect citoyen qui conteste ce nouveau règlement, cette nouvelle loi municipale vous empêchant d'utiliser votre poêle à bois. Donc, bien hâte de voir ce que Respect citoyen va avoir dit. Et justement, à la météo, ben, y a un avertissement jaune de smog, Pascal. J'espère qu'on fera pas fermer nos foyers.
Mais si on en a besoin, pourquoi pas?
Ah oui, c'est ça qui va arriver.
Là, hein?
Moins 6 degrés, faible neige intermittente qui devrait commencer là, début de soirée sur Québec. Moins 9 ciel dégagé demain, moins 10 possibilités d'averse de neige. Au sport, bien, c'est le Canadien de Montréal ce soir qui affronte les Jets de Winnipeg, 19h. C'est Samuel Montembeau qui sera devant le filet malgré l'excellente séquence de Jacob Dobesch. C'est le dernier match du Canadien avant la pause olympique. Donc, si vous voulez être à l'écoute de RDS avec Pierre Houde et Marc Denis, c'est ce soir, 19h. Le tournoi olympique commence le 11 février prochain, le Canada qui va affronter la Tchéquie. Pascal, dans les vraies nouvelles.
Ouais, ben là, je pourrais te parler de Snoop Dogg qui a tenu la flamme olympique dans les dernières minutes.
Il a-tu fumé?
Ça. Ben, non.
Non, il l'a pas fumé.
Il l'a juste tenu. Alors, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Mais je vais te parler de Mark Carney. Il a supprimé officiellement les postes de représentants spéciaux contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Alors, ça vient de sortir il y a peut-être une quarantaine de minutes. C'est des postes qui avaient été nommés sous Justin Trudeau. Ils seront remplacés par la création d'un conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion pour lutter contre la haine, et c'est le Globe and Mail qui nous le rapporte. Je peux te parler aussi, en rafale, de l'entente avec les médecins de famille. On disait qu'on n'allait pas reculer sur rien dans le projet de loi 2. Bien là, on recule, clairement, parce que l'abolition des pénalités, nouvelles primes, moins de patients pris en charge, ça, c'est dans la nouvelle formule du ministre de la Santé. Alors, on a reculé sur plusieurs priorités du gouvernement Legault dans ce projet-là. Et vous le savez, c'est pour améliorer l'accès aux soins. Il y a même certains médecins qui seront exclus du mode de rémunération par capitation. On revient sur le salut nazi à l'hôtel de ville. Bruno Marchand qui avait pointé du doigt une citoyenne il y a un an maintenant, jour pour jour, lorsqu'elle était venue poser une question dans la séance de questions, il lui avait dit « Pourquoi vous faites un salut nazi? » Il avait, pointé du doigt pour ça. Ouais. Et elle poursuit officiellement pour 400 000 $ Bruno Marchand. Elle s'attendait à des excuses plus sincères. Elle dit qu'elle n'a pas eu ce qu'elle méritait dans le dit dossier. La citoyenne, c'est Vicky Lépine et elle met ses menaces à exécution. Donc, elle intente une poursuite de 400 000 $ contre le maire de Québec. Et je termine avec Bernard Drainville qui dénonce l'ambivalence de Mme Christine Fréchette. Pourquoi? Pour le dossier du troisième lien. Il la somme de se prononcer en faveur ou en défaveur le plus rapidement possible. Chose que Christine Fréchette a tweeté un peu plus tôt, qu'elle allait prendre plusieurs jours encore pour étudier le dossier parce qu'elle dit que c'est un dossier qui se doit d'être respectueux et bien étudié avec rigueur.
Voici ce que Bernard Drainville a dit justement concernant le troisième lien.
Nous avons tous les deux fait campagne sur l'engagement de se donner un troisième lien entre Québec et Lévis. Être à la CAQ, c'est être pour le troisième lien. Par la suite, on a eu des présentations du projet, tant au caucus qu'en comité ministériel qu'au Conseil des ministres. Nous avons tenu des consultations publiques et le gouvernement a décidé, il a retenu un corridor.
Et Pascal, on termine avec une excellente nouvelle pour les citoyens de Minneapolis. On va enlever des policiers du ICE.
Oui, on retire immédiatement 700 policiers de l'immigration, en fait, sous l'émissaire de Donald Trump. Et on a annoncé tout ça aujourd'hui. Il y a un geste un peu de désescalade qu'on veut aller chercher après des semaines de fortes tensions dans la ville, marquée par la mort, je vous rappelle, de deux manifestants.
À l'émission On en jase demain, on revient avec le caucus Iaccarini avec Antonine Iaccarini. L'excellent Rémi Villemur va être avec nous également pour sa chronique aux alentours de 13h10, animateur au 99.5 Montréal. En attendant, c'est le retour de Gravel qui s'installe sur nos ondes de 14h à 18h, Marceau le soir à 18h, et demain matin, on repart la roue avec Marceau le matin. Ce sera Stéphane Lachance aux alentours de 7h25 qui va être en studio avec nous pour nous parler justement des conclusions de son expert en matière de particules de bois fines dans l'air. Pascal CV, merci beaucoup pour cette excellente émission.
À demain.
On se reparle demain. Bye-bye, guys. Restez à l'antenne de Boulevard 101.